Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur les Nouveaux Chemins.
On peut prendre l'exemple d'un grand philosophe de l'innocence par rapport à des personnages innocents. C'est l'exemple d'Héraclite par rapport à Laurel et Hardy. Je crois que la grande rencontre, c'est Héraclite, Laurel et Hardy.
Les Nouveaux Chemins vous accompagnent tous les jours à 10h en direct et toutes les nuits en téléchargement. Chaque semaine, nous explorons un thème à la croisée des disciplines philosophie, littérature, cinéma et musique. Et à 10h50, tous les jours, vous retrouvez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons qui vous donnent envie de lire de près l'actualité éditoriale philosophique. Héraclite est l'observateur désabusé de la nature humaine. Il vit vers la fin du 6e siècle avant notre ère, mais ce qu'il écrit aurait pu se trouver sous la plume de Schopenhauer ou même de Cioran. Son pessimisme est lucide et magnifique, ses phrases simples et implacables. La centaine de fragments qui nous restent peuvent être lus comme autant d'aphorismes d'une pensée bien complète dans l'esprit du voyageur et son ombre de Nietzsche. Le sens de ces aphorismes semble changer à chaque lecture. On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve et on ne lit jamais deux fois les mêmes phrases chez Héraclite. Bonjour Hans Wiesmann.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, du programme d'enseignement et de recherche sur l'épistémologie des sciences humaines. Et vous avez publié entre autres en 2011 avec Jean Bollack, Héraclite ou la séparation, aux éditions de Minuit.
Héraclite savait que la vérité est noble et que l'image qui la révèle, c'est la tragédie. Il ne se contentait pas de définir la liberté. Il la découvrait indéracinable, attisant la convoitise des tyrans, perdant son sang mais accroissant ses forces, au centre même du perpétuel. Sa vue d'aigle solaire, sa sensibilité particulière l'avait persuadé, une fois pour toutes, que la seule certitude que nous possédions de la réalité du lendemain, c'est le pessimisme. Forme accomplie du secret où nous venons nous rafraîchir, prendre garde et dormir. Le devenir progresse conjointement à l'intérieur et tout autour de nous. Il n'est pas subordonné aux preuves de la nature, il s'ajoute à elle et agit sur elle. Sauve est l'occurrence des événements magiques susceptibles de se produire devant nos yeux. Il bouleverse en enrichissant un ordre trop souvent ingrat. La perception du fatal, la présence continue du risque et cette part de l'obscur comme une grande rame plongeant dans les eaux tiennent l'heure en haleine et nous maintiennent disponibles à sa hauteur. Héraclite est ce génie fier, stable et anxieux qui traverse les temps mobiles, qu'il a formulés, affermis et aussitôt oubliés pour courir en avant d'eux, tandis qu'au passage il respire dans l'un ou l'autre de nous.
C'est René Char qui met en avant ce pessimisme héroïque d'Héraclite pour faire face à ce qu'il appelle la perception du fatal. René Char qui lui a consacré un texte intitulé Héraclite d'Éphèse, tout simplement, dans Recherche de la base et du sommet. Et de même que le texte de Char est extrêmement précis et poétique, même si ici c'est de la prose et que c'est une espèce de prose qui conduit la poésie dans la forme mais aussi dans le fond, les textes d'Héraclite, Hans Wiesmann, sont aussi ce mélange entre un constat très lucide qu'on pourrait qualifier de philosophique et ont une espèce de portée poétique qui fait que le sens n'est jamais complètement fermé.
Il faut partir, à mon avis, de l'impression de pessimisme qui se dégage de ces fragments, alors que si on les lit les uns après les autres, eh bien, ce qu'on rencontre, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à du sarcasme. Il n'y a pas cette espèce de fascination pour l'inéluctable, alors la perception du fatal chez Char. Il y a une tradition très ancienne qui fait d'Héraclite quelqu'un qui pleure. Eh bien, quand on le lit, il n'y a pas de larmes. Ce qu'il y a, c'est un constat extraordinairement lucide concernant notre capacité de dire ce que nous croyons être vrai. Et Héraclite soutient, depuis la première phrase de son du recueil qu'on a, c'est l'exorde de son, on peut même pas dire livre, de son ensemble d'apophtegmes, dès la première phrase, il soutient que lorsque nous parlons, nous ne nous entendons pas dire ce que nous croyons dire. Au cœur même du langage, ce qu'il appelle le logos ou le discours, il y a comme une faille qui fait que nous sommes éternellement séparés de ce que nous voulons dire, nous visons comme représentation, par exemple. Et donc, il y a une critique acerbe de toutes les spéculations qui l'ont précédée, et d'ailleurs de toutes les spéculations qui vont suivre. Parce que dans la proposition spéculative, on prétend cibler quelque chose qu'on est capable de se représenter. Alors que le langage, qui est le véhicule de cette représentation spéculative, dit très souvent autre chose, et on ne l'entend pas, que ce qu'il prétend dire. Et c'est ça l'intervention, je dirais, sarcastique ou désabusée.
C'est ça, donc plutôt que de pessimisme, on pourrait parler de conscience tragique,
voilà,
de l'existence.
Ça, c'est beaucoup plus proche, parce que chaque fois, il y a comme un déchirement. Quelque chose qui fait qu'alors que l'optimisme du savoir, c'est d'avoir accès à ce qui est, eh bien cet optimisme-là est évidemment désavoué par Héraclite, mais pas au nom d'un pessimisme qui, au XIXe siècle, prend cette allure héroïque chez Nietzsche, et c'est magnifique d'ailleurs. Simplement, je crois que c'est pas la tonalité véritable de ces textes, qui comportent un élément, je dirais aussi, analytique. C'est-à-dire, très souvent, ce sont des textes, d'ailleurs on va peut-être en citer quelques-uns, qui sont particulièrement loufoques, parce que on va, si on parle de fragments où il soutient que les cochons s'amusent sur le fumier, alors en quoi cela relève-t-il de la philosophie?
Mais il faut dire que dans la centaine de fragments ou d'aphorismes ou d'apophtegmes, c'est ça, que, pour reprendre le terme que vous avez employé, qui nous reste, donc à savoir, est-ce que ce n'est qu'une partie de sa pensée ou le tout de sa pensée, nous avons une succession d'affirmations qui ont parfois une portée philosophique indéniable, qui évoquent la justice, le chemin, la mortalité, d'autres considérations qui semblent plus prosaïques concernant les médecins, concernant la peinture, concernant les porcs, vous l'avez dit, ou les cochons, selon la traduction, et parfois quelque chose de beaucoup plus ludique. Nous avons toutes les tonalités sur une phrase, deux maximum en réalité.
Ça.
Et c'est pour ça qu'on peut lire ce texte comme une forme de poésie philosophique.
Absolument. C'est-à-dire, c'est ça qui rapproche d'ailleurs Héraclite de la pratique de l'écriture qu'on a chez Nietzsche, parce que c'est aussi le refus de la totalisation optimiste ou parfois un peu bébête. La rupture est d'emblée inscrite dans le premier mot d'une phrase qu'on prononce, puisque le mot, ce qu'il doit dire, n'est peut-être pas ce qu'il dit, et l'autre qui écoute la même phrase l'entend autrement. Il y a plein d'exemples où Héraclite fait de l'étymologie. Il y a ce fragment célèbre sur l'arc, dont il dit que son œuvre est mort et son nom est vie. Parce que, en grec archaïque, l'arc se dit bios, avec un accent qui n'est pas le même accent que sur bios qui veut dire vie. Mais il joue sur cette espèce d'homophonie pour dire que quand je dis l'arc et j'utilise le mot bios, moi je veux dire arc, donc un outil de mort. Mais quelqu'un qui m'entend parler peut parfaitement entendre vie. Et donc il y a une espèce de rupture à l'intérieur même de l'énoncé. Et c'est ça, je dirais, le conflit entre le dire et le dit. Dans un langage plus contemporain, on dirait entre le signifiant et le signifié. C'est cela la chose que Héraclite pointe à tous les niveaux du discours tenu par les humains. Politique, médical, culturel, avec Homère, Hésiode, etc.
Pourquoi, qu'est-ce qu'il reproche à Homère? Parce qu'il a, il ne manque pas de mots durs envers Homère dans ses
textes. Parce qu'Homère, c'est la Bible de l'époque. Et donc, on pense trouver dans l'Homère, c'est pour ça qu'il est rituellement récité pendant les grandes fêtes religieuses, on pense trouver dans Homère la clé de ce qui est, de ce qui nous entoure. Il est le grand sage, et ses textes sont dans les textes canoniques, comme a été la Bible pendant des siècles. Eh bien, Héraclite intervient dans cette fonction qu'on a attribué au texte homérique, de nous dire ce qu'il en est de ce qui est. Et Héraclite dit, mais c'est une prétention qui est absolument incompatible avec le fonctionnement du langage, qu'il appelle logos, puisque le langage se contredit. Et c'est cette contradiction qu'il met en scène.
Il écrit au paragraphe 56, enfin paragraphe, oui. Aphorisme 56, « Ils sont joués, les hommes, dans leur effort pour connaître les choses visibles. » Presque comme Homère, le plus fort de tous les Grecs, car c'est bien à lui que les enfants qui tuaient des poux disaient, le jouant, « Tout ce que nous avons vu et attrapé, cela nous le laissons, ce que nous n'avons ni vu, ni pris, cela nous l'emportons. » On trouve toujours ce jeu entre deux extrêmes chez Héraclite qui l'oppose comme pour mieux les annuler en réalité.
Voilà. Ou pour les... Ben, il s'annule les extrêmes, mais en même temps, il impose une structure qui est d'ailleurs pas le devenir.
Alors c'est, voilà, c'est là où vous distinguez du reste des interprétations d'Héraclite. Hein.
Ça,
non,
c'est
pas le penseur du devenir.
C'est la Vulgate, prête à Héraclite une métaphysique du devenir, pour l'opposer à une métaphysique de la stabilité. Alors là où Thalès dit tout est eau, ou Anaximène tout est air, Héraclite aurait dit tout est feu. Or, la grande différence entre l'eau, l'air et le feu, c'est que le feu n'est jamais auprès de lui, à la différence de l'eau et de l'air, qui peuvent se rassembler dans une espèce d'ensemble homogène. Le feu, pour brûler, cingle vers l'ailleurs. Et ce qui permet que le feu brûle, eh bien, c'est ce qu'il va réduire en cendres. Et donc, la contradiction du logos, qu'il appelle feu, s'inscrit dans la métaphore.
Le logos, c'est le feu pour lui. La raison, c'est le feu.
Il appelle le logos feu. C'est pour ça que les stoïciens, qui refont une espèce de cosmologie à l'ancienne, ont fait de ce feu l'équivalent de ce que les autres appellent eau ou air. C'est-à-dire, le feu, à la fin des temps, est rassemblé dans une sorte de boule, un embrasement final. Mais imaginez une fois le feu sans ce qu'il brûle. Dans ce cas, il ne brûle plus. Et donc, il y a des fragments d'Héraclite qui sont magnifiques, où il montre que si le feu a de quoi se nourrir, eh bien, il a faim. Et cette faim, c'est sa vie. Alors que dans une autre vision du feu, plus traditionnelle, stoïcienne, eh bien, quand le feu a faim, il est éloigné de lui-même, il s'échappe à lui-même, il doit revenir à lui-même pour être dans la satiété, la plénitude, qui est donc connotée pour le positivement.
C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que le feu s'éteint lorsqu'il est repu.
Mais oui.
Il meurt lorsqu'il a bien mangé.
Il y a un mot, koros, en grec, qui désigne la réplétion. Et c'est négatif. C'est-à-dire quand on est replet, quand on n'a plus faim, eh bien, on flambe plus, puisqu'on a tout bouffé. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a un fragment où il dit que les meilleurs choisissent l'un pour cingler vers l'eau, tandis que la foule gît replète comme du bétail. Et donc, cette espèce d'aristocratisme à l'égard de ces...
Ils prennent une chose contre toutes, les meilleurs, voilà. Gloire toujours jaillissante des mortels, la masse des hommes est repue comme les bêtes.
Exactement. Toujours jaillissante, ça c'est le feu. Et donc, l'un en question, ce n'est pas la totalité, comme on a voulu très souvent le comprendre, puisque jusqu'à Heidegger, on soutient qu'Héraclite est un penseur de l'un, du tout-un.
Eh ben, il est... Comme chez Parménide, dont on parlait lundi dernier.
Parménide refait après Héraclite, oui. À partir d'ailleurs du langage. Ça aussi, il faut comprendre que là où les autres ont une représentation immédiate, O, R, etc., Parménide tient compte de l'objection linguistique d'Héraclite, et il commence sa réflexion par le verbe « et ». Il dit, alors, quand on dit « et », qu'est-ce qu'il faut entendre? Là, il est héraclitéen. Il tient compte de l'objection. Et très, très habilement, il dit, mais quand je dis « et », je ne peux pas m'empêcher de penser que le sujet de cette affirmation « et », c'est le participe du verbe « être ». Là, je suis imparable. Je ne peux pas être entraîné dans l'opposition héraclitéenne entre le dire et le dit, puisque le participe du verbe être et le verbe être, eh ben, c'est la même chose. Et c'est à partir de ce qu'il appelle le on, le participe du verbe esti, qu'il crée l'ontologie. Et ça, c'est une réflexion spéculative des cosmologies premières. Sauf que maintenant, c'est la sphère de l'être qui se constitue, ce n'est plus la sphère de l'eau ou la sphère de l'air. Eh bien, pour moi, Parménide et sa démarche, qui part du langage, eh bien, prouve que l'objection héraclitéenne portait sur le fonctionnement du langage. Ne soyez pas naïfs, vous pensez savoir ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que vous dites, parce que le discours ou le logos vous joue des tours. Et d'où le côté un peu sarcastique, parfois grinçant. Dans la tradition ancienne, on disait que Héraclite croissait comme un corbeau. Et là, ça, c'est pas l'élévation héroïque du pessimisme qu'on a voulu lui prêter. C'est quelque chose d'autre. C'est une immense subtilité tragique, d'accord, mais assumée dans un geste qui ne valorise pas du tout le pathos. Il n'y a pas de pathos héraclitéen.
Alors, allumons le feu avant d'écouter le premier des aphorismes d'Héraclite, difficile sans doute à entendre, mais c'est le propos même d'Héraclite, et vous allez nous l'expliquer juste ensuite, Anne Wiesmann.
Who in the night time? Who by high ordeal? Who by common trial? Who in your merry, merry month of May? Who by very slow decay? And who shall I say is calling?
Or, du discours qui est celui-là, les hommes vivent toujours loin, par l'intelligence, avant d'écouter, comme après qu'ils l'ont écouté une première fois. Car toute chose vit suivant le discours qui est celui-là, si bien qu'on les voit, dans l'apparence, ignorer ce qu'ils pratiquent, disent et actent, tels ceux que moi-même je développe jusqu'au bout, divisant chacun selon la nature qu'il a et montrant comment il est fait. Les autres hommes ignorent tout ce qu'ils font dans l'éveil et tout ce qu'ils oublient dans le sommeil.
On retrouve tout au long des aphorismes cette opposition entre l'éveil et le sommeil. Hein, et on ne sait jamais de quel côté ils se situent, puisque bien souvent, on l'a dit, il essaye de réconcilier les extrêmes ou de montrer peut-être qu'ils sont finalement qu'ils ne s'opposent pas, qu'ils sont sur le même niveau qui est celui des extrêmes précisément. Avant d'en venir à une explication de texte précise et lumineuse, Hans Wiesmann, comment expliquer que le premier fragment commence par ce mot « or » C'est un verbe or, comme si il y avait quelque chose avant. Or, c'est le premier des aphorismes. Donc, de deux choses l'une. Soit il y a un texte qui précède qu'on a perdu, soit c'est délibéré de la part d'Héraclite.
C'est une figure rhétorique qu'on trouve d'ailleurs chez d'autres, chez Parménide, mais on la trouve surtout chez Pindare, dans les hymnes. Ça consiste à suggérer à celui qui écoute qu'on s'adresse à ce qui a été dit et donc il faut reconstruire le sens à partir du sens qu'on oppose. C'est une manière d'impliquer celui à qui on s'adresse. On lui prétend quelque chose qu'il n'a pas dit, mais qui, à travers ce qu'on va opposer, lui apparaîtra comme pouvant être dit. C'est extraordinaire comme, je veux dire, suggestion verbale par un seul petit mot. Parce qu'en grec, c'est « de ». Et le « de » s'oppose à un « men ». Le « men », ce serait quelque chose qui a été dit ou aurait pu être dit.
C'est une manière d'attirer l'attention d'emblée. Or, d'emblée, comme si oui, on prenait la pensée en cours de route.
Oui, on l'implique. Ce n'est pas un texte d'Héraclite qui précède. C'est ce que Héraclite prête à ceux qui vont l'écouter. et dont ils pensent que ce qu'ils auraient dit ou auraient pu dire, eh bien, ce serait en contradiction avec ce qu'ils leur opposent.
Comme un hors-champ ou une référence intertextuelle voilà. Silencieuse.
Et donc, c'est pour ça que les textes héraclitéens sont toujours ont une allure d'intervention. Ce sont des textes qui interviennent dans quelque chose qui a déjà été dit. Et enfin, dans le commentaire qu'on a fait avec Bollock, très souvent on montre qu'un fragment d'Héraclite redit une chose qui a déjà été dite, notamment des proverbes. Et alors l'extraordinaire platitude apparente de certaines reprises de proverbes, eh bien, cesse d'être plate si on voit que dans la reprise d'un proverbe, Héraclite fait affleurer, par un jeu de mots en général, un sens insoupçonné par ceux qui vivent selon le proverbe. D'où le « de ». Or, il y a autre chose à entendre que
or,
ce qu'on entend.
Si on suit la phrase, « or, du discours qui est celui-là », et là c'est votre traduction du terme « logos », vous ne traduisez pas par « raison », « raison universelle », c'est « du discours qui est celui-là », les hommes vivent toujours loin par l'intelligence, avant d'écouter, comme après qu'ils l'ont écouté une première fois. Oui. Vous affirmez, enfin, votre traduction insiste sur l'affirmation initiale d'Héraclite, c'est-à-dire que l'homme est comme séparé de ce qu'il dit.
Oui. Et donc, Aristote, c'est quand même rarissime, Aristote cite cette première phrase dans sa rhétorique, et il dit que le sens de cette phrase dépend de la manière dont on la ponctue. Parce que le petit mot « aei » qui veut dire « toujours » peut être rattaché soit à ce qui précède, soit à ce qui suit. Alors, quand on le rattache à ce qui précède, ça donne « du discours » ou « de ce discours qui est toujours ». Du coup, ce n'est pas le discours d'Héraclite, c'est la raison universelle. Et la plupart des interprètes, depuis toujours, considèrent que « logos » désigne la raison universelle. Mais parce que la ponctuation, c'est un choix, à rattacher le « toujours » à... au génitif éontos, qui veut dire qui est toujours. Alors, le discours d'un Héraclite, d'un sujet, ne peut pas être toujours. Et du coup, pour que ce soit maintenant le discours d'Héraclite, on rattache le toujours au mot suivant. Et dans ce cas, ça donne de ce discours
qui est celui-là.
Celui-ci.
D'accord, c'est pas le discours en général, c'est ce discours-ci.
C'est le discours-là. Et une fois qu'on a. Enfin, c'est comme une puce à l'oreille. On se dit, si c'est ça. Eh bien, Héraclite n'est pas, comme les autres philosophes, en train de se faire le porte-parole d'une raison universelle. Et comme c'est son propre discours, et d'une certaine manière le fonctionnement même de la parole qu'il questionne, il peut dire cette chose abracabra...
Bon, abracadabrante.
Je ne veux pas le dire comme Chirac.
Nous sommes séparés du langage, hein, dit Héraclite.
La tentation était grande. Comment peut-il dire... avec un air de reproche, que les hommes sont éloignés de ce discours avant de l'avoir entendu, comme après. Eh bien, c'est parce qu'ils le sont toujours. Structurellement, le langage a une manière de dissocier ce qu'il désigne comme la chose qu'il s'agit de se représenter, le signifier, et l'outil qui est... donc, la parole, telle qu'elle s'énonce, avec donc son homophonie possible, cette opposition-là, peu importe que les hommes aient écouté ou pas écouté, ça vaudra toujours. Et c'est pour ça qu'il poursuit en disant, quant à moi, je vais séparer les choses selon leur nature, ça ne veut pas dire qu'il va procéder à une sorte d'interprétation cosmologique du monde. Il dit, chaque fois qu'on pratique quelque chose qui a un sens, par exemple, on fait, ça peut être même un rituel de sacrifice. Il en parle d'ailleurs. Eh bien, c'est un acte comme un acte de parole, puisqu'il s'agit de signifier quelque chose. Quand on se lave d'un meurtre en s'aspergeant du sang d'un bœuf, Héraclite dit oui, mais il ne voit pas. Il pense qu'il se nettoie avec le sang du bœuf, du sang qu'ils ont versé. Mais il ne voit pas qu'il ressemble à des gens qui entrent dans un marais pour se nettoyer de la boue.
Il dit « Je pose donc deux genres de sacrifices. D'une part, ceux des hommes entièrement purifiés, tels que rarement un homme singulier les accomplit, ou quelques hommes que l'on compte. D'autre part, ceux qui restent dans la matière. Ouais. » Et plus loin, il dit « Voilà, ceux qui sacrifient leurs victimes pensent nettoyer avec le sang de leurs victimes. »
Voilà, exactement. Et là, ils oublient, parce qu'ils sont tellement, je dirais, obnubilés par le sens qu'ils donnent au fait que l'eau coule sur leur corps, comme de l'eau, par exemple. Ils sont tellement obnubilés par ça qu'ils ne voient pas qu'ils se souillent une deuxième fois. Puisqu'ils ont versé, ils ont du sang sur les mains, et maintenant, pour se laver, ils mettent du sang dessus. Eh bien, toutes les opérations d'Héraclite, c'est ça la séparation dont il parle, les choses selon leur nature, c'est toute chose comporte un aspect représentable et un autre versant qui ne l'est pas et qui échappe à l'écoute, et pas à l'entendement en général. Et chaque fois qu'un discours particulier est tenu, eh bien, nous sommes tous tendus vers ce qu'il veut dire. C'est-à-dire celui qui parle et celui qui écoute sont tellement obnubilés par ce qui est visé dans le discours qu'ils n'entendent pas que le langage leur joue des tours.
C'est comme si l'homme héraclitéen était une espèce de bulle séparée du monde qui n'avait accès à ce monde que par les sens et qui pourtant essayait toujours de dépasser ses sens pour en connaître l'essence même. Et c'est là où il se trompait. Il y a beaucoup de réflexions sur la perception, la vue. Il dit le lien qu'on ne voit pas est plus fort que celui qu'on voit. Et on ne sait pas là si d'ailleurs il dénonce cette tentation de toujours voir au-delà de ce qu'on voit ou si au contraire il la valide.
Exactement. C'est-à-dire c'est une dénonciation mais générale d'une illusion spéculative qui accompagne tous nos propos. On a toujours l'impression quand on parle de parler de quelque chose et on n'entend pas nécessairement la parole qui nous sert à dire ce qu'on veut dire. Et Héraclite, c'est une espèce d'attention décalée. Et alors chaque fois, c'est une opposition qu'il appelle logos, une opposition qui se bloque et qui fait qu'au contraire, ce n'est pas du devenir qui se bloque, quel que soit le domaine dans lequel il intervient. Et donc le chemin vers le haut, le chemin vers le bas, c'est le même. Pourquoi ? Parce que quand je chemine vers le haut, je fabrique du bas. C'est ça. Donc le type qui chemine vers le haut pense cheminer vers le haut, il oublie complètement que lorsqu'il chemine vers le haut, il fabrique littéralement ou laisse derrière lui le chemin vers le bas. Et donc cette coïncidence des contraires qui s'arrête dans un geste qui est essentiellement celui du logos, de la parole, mais il le retrouve par ailleurs, je sais pas, dans des métaphores qu'il peut emprunter à n'importe quoi, à des phénomènes naturels. Chaque fois, ce principe du logos, c'est ce qu'on a appelé la séparation, la mise en place d'une opposition insurmontable. Eh bien, ça peut s'opérer dans n'importe quel ordre du réel. Et c'est pour ça qu'il dit dans ce premier fragment qu'il va séparer les choses selon leur nature.
Les deux que voici, l'homme qui rit, celui d'Abdère, Démocrite, et l'homme qui pleure, celui d'Éphèse, Héraclite. Des deux, je veux faire un seul lot pour la vente.
Descendez tous les deux au milieu du public.
Zeus, quel contraste! L'un ne cesse de rire. L'autre a l'air d'être en deuil de quelqu'un. Il ne fait que pleurer. Qu'est-ce que tu as, toi? Qu'est-ce qui te fait rire?
Tu le demandes? C'est que tout me semble risible. Vous-même, autant que ce que vous faites.
Comment cela? Tu te moques de nous tous et tiens pour rien ce que nous faisons?
Exactement. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Et tout n'est que vide, mouvement d'atomes. Infini.
Et toi, pourquoi pleures-tu, mon brave? Car je crois bien préférable de causer avec toi.
C'est que, selon moi, étranger, les choses humaines sont affligeantes et pitoyables. Et il n'y a rien en elles qui échappe à la mort. Voilà pourquoi j'ai pitié des hommes et me lamente sur eux. Le présent me paraît peu de choses, mais l'avenir, complètement sombre. J'y vois l'embrasement et la fin tragique de l'univers. Je pleure aussi de voir que rien n'est stable, que tout se mélange en une espèce de bouillie, et que tout revient au même agrément et désagrément, connaissance et ignorance, grand et petit, haut et bas. C'est une ronde, un chassé-croisé dans le jeu de l'éternité.
Qu'est-ce que l'éternité ?
Un enfant qui s'amuse, il joue avec les pions, les écarte, les rapproche.
Et les hommes, qui sont-ils ?
Des dieux mortels.
Et les dieux ?
Des hommes immortels.
Rien de ce que tu dis n'est clair.
C'est que je ne me soucie pas du tout de vous.
Bah, alors personne de sensé ne t'achètera.
Encore des invendus qui nous restent sur les bras.
Dans l'eau du temps qui coule à petit bruit, dans l'air du temps qui souffle à petit vent, dans l'eau du temps qui parle à petits mots et sourdement touche l'herbe et le sable, dans l'eau du temps qui traverse les mares, usant au front le rêve des statues, dans l'eau du temps qui muse au lourd jardin, le vent du temps qui fuse au lourd feuillage, dans l'air du temps qui ruse aux quatre vents et qui jamais ne pose son envol.
L'eau du temps que chante Jeanne Moreau, c'est celle d'Héraclite, le présocratique qui nous accompagne aujourd'hui pour le troisième temps de cette série d'émissions consacrée au présocratique. Parménide lundi, Anaxagore hier, Empédocle demain, et donc Héraclite aujourd'hui en compagnie d'Heinz Wissmann, directeur d'études à l'EHESS du programme d'enseignement et de recherche sur l'épistémologie des sciences humaines, et qui a publié avec Jean Bollac un livre intitulé Héraclite ou la séparation aux éditions Minuit.
J'aurais vécu à profonde saveur, cherchant un peu de terre sous mes pieds. J'aurais vécu à profonde gorgée. J'aurais vécu à profonde gorgée, buvant le temps, buvant tout l'air du temps et tout le vin qui coule dans le temps. Et tout le vin qui coule dans le temps.
Si vous prenez vos distances, Heinz Wissmann, avec une interprétation ontologique des textes d'Héraclite, comment est-ce que vous interprétez ce fameux, célèbre fragment « On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve » si ce n'est comme le constat d'un devenir qui sans cesse nous échappe?
Non, c'est le contraire. Sans la pression des deux rives, il n'y aurait pas de fleuve qui coule. C'est-à-dire, c'est l'opposition des rives qui fait qu'il y a une dynamique. On a la même chose avec l'arc, qui est structurellement pareil. S'il n'y avait pas la corde qui recourbe les deux bouts du bois, il n'y aurait pas l'énergie qui lance la flèche. Ce que Héraclite veut dire, c'est que ce qui nous apparaît comme la succession d'instants du devenir est le résultat d'une pression immobile de contraires. Et ce qu'il faut éviter, c'est d'imaginer que les contraires basculent l'un dans l'autre et deviennent le devenir. Ce n'est pas ça.
C'est ce qu'on entendait dans la pièce de théâtre qui a précédé la chanson. C'était un extrait de la pièce de Lucien de Samosate, d'ailleurs, qui mettait en scène Démocrite, l'homme qui rit, et Héraclite, l'homme qui pleure. Ce qui est d'ailleurs contestable. Hein, quand on vous entend, on voit bien que finalement Héraclite aurait pu être l'homme qui rit. Voilà. Et qui donc le faisait dire à Héraclite, mais oui, tous les contraires se valent, tout revient au même, et c'est une espèce de ronde dans le jeu de l'éternité. Voilà. Ça, c'est un contresens.
Contresens. Parce que imaginez maintenant que les deux rives s'écartent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'opposition. Le fleuve devient une flaque. Alors imaginez un arc qui ne serait pas tendu, dont les deux bouts ne seraient pas retenus par la corde. Vous pouvez toujours essayer de lancer une flèche avec cela. L'idée d'Héraclite, c'est que toute la dynamique du changement que nous observons est en réalité le résultat d'une tension immobile des contraires. D'où l'idée, le chemin vers le haut, le chemin vers le bas, c'est le même. C'est-à-dire, moi, je peux toujours cheminer. Mais quand je vais vers le haut, je produis du vers le bas. Tous les fragments qu'on a servent à dire que les contraires s'installent d'une manière, je dirais, universelle, comme une forme de chiffre qui nous présente la façon dont nous avons accès, ou plutôt pas vraiment accès, au réel. Le fragment le plus drôle, c'est le soleil est de la grandeur de mon pied. Comment peut-on dire que c'est de la philosophie pessimiste ou que sais-je ? Non, Héraclite a quitté la ville. Il était d'extraction noble, il aurait pu avoir une carrière politique. Il est parti s'installer au temple d'Artémis, en dehors de la ville, pour bien montrer que la séparation était le seul geste qui permettait à quelqu'un qui voulait le suivre de l'atteindre. Puisqu'il se séparait lui-même de la ville, comme dans le langage, il sépare ce que le langage semble dire de ce qu'il dit en réalité. Eh bien, pourquoi cette histoire du pied et la grandeur du soleil ? Eh bien, dans toute proposition spéculative, la grandeur du soleil n'est pas celle qu'on voit, mais celle que spéculativement, c'est 3 fois ce qu'on voit, ou 100 fois ce qu'on voit, etc. Et Héraclite se couche, parce qu'on dit toujours qu'il est couché, même sur du fumier. Ben, il lève son pied et il montre à ses acolytes que son pied lui cache le soleil. Donc, quelle est la valeur d'une affirmation spéculative selon laquelle le soleil est autre que celle qu'on le voit ? Eh bien, le soleil a exactement la taille de ce qui fait qu'on ne le voit pas. Le pied, en le cachant, ben, c'est évidemment de la dérision. Et on est de nouveau très très loin d'Héraclite qui pleure. C'est quelqu'un qui, moi je dis plutôt que c'est du sarcasme. Il montre que toutes les spéculations sur la taille du soleil mettent en œuvre en réalité un geste structurant qui est le geste de la négation.
Au fond, c'est une conception du langage qui est celle des sophistes qui pensent que le langage ne peut jamais atteindre la réalité.
Mais les sophistes sont les héritiers, mais ils se réclament d'Héraclite. Pourquoi on donne à Héraclite quelque chose qui le couperait entièrement des sophistes qui, eux, disaient qu'ils ne faisaient que continuer Héraclite comme Démocrite, l'atomiste, avec donc cette idée d'un nombre illimité d'atomes dans un vide infini, où on a de nouveau l'opposition entre le plein et le vide qui joue comme l'opposition héraclitéenne. Démocrite, c'est Héraclite, rédivivus, c'est la fameuse phrase « les cochons s'amusent sur le fumier ». Alors il faut entendre « mais les cochons s'amusent sur le fumier ». Le simple déplacement fait que ça n'a pas le sens qu'on prête à la phrase quand on dit à son fils qui se barbouille en mangeant, mais c'est les cochons qui s'amusent sur le... Et le fils pourrait répliquer, mais c'est les cochons s'amusent sur le... Mmh. Et pour souligner ce déplacement, mais c'est pour l'écoute, eh bien, Démocrite reprend le même fragment. On l'a chez Démocrite, il remplace le mot « il s'amuse » par un verbe qui veut dire « ils font le fou ». Font les fous, c'est-à-dire pour accentuer encore l'amusement. Et du coup, quand on lit la phrase de Démocrite, on entend mais les porcs s'amusent vraiment sur le fût, parce qu'ils font les fous. C'est ce petit jeu à l'intérieur de la production langagière qui fait que c'est, d'une certaine manière, pas très éloigné de ce que la psychanalyse met à jour.
Et d'ailleurs, la récurrence de l'opposition entre la veille et le sommeil va dans votre sens.
Exactement.
Et l'homme éveillé n'est pas celui qui veille. Hein,
exactement. C'est ce qu'il semble dire. Et donc, que fait la psychanalyse quand elle analyse un lapsus, quand elle écoute à côté ? Et alors, plutôt que de prêter attention à ce que le type veut dire, on se demande, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire effectivement ? Et ce qu'il dit effectivement, très souvent, lui échappe.
C'est là où on voit qu'il n'est pas du tout dans une forme de relativisme, comme pourrait le laisser entendre l'opposition des contraires qu'on met à plat. Peut-être plutôt dans un scepticisme, au contraire, c'est-à-dire la lucidité quant à l'impossibilité de connaître les choses telles qu'elles sont, ce qui n'implique pas le refus de toute forme de parole, au contraire.
Absolument. Et pourquoi il prononce toutes ces phrases s'il ne s'attend pas à ce que quelqu'un, quand même, puisse le rejoindre ? Seulement, pour le rejoindre, il faut se séparer du mainstream, il faut se séparer de l'opinion commune, il faut quitter la cité. Et c'est pour ça qu'on a des textes où il dit mais les Éphésiens, il vaudrait mieux les pendre tous. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent en communauté avec l'opinion publique, comme on dirait aujourd'hui. Héraclite s'inscrit en faux contre l'opinion publique qui est toujours faite de phrases qu'on appelle de nos jours éléments de langage. Eh bien, lui détruit tous les éléments de langage de manière socio-critique ou psychanalytique, on pourrait parfaitement considérer que c'est le même rapport, je dirais, soupçonneux à l'égard des performances que le langage nous permet de mettre en avant.
Mais pas que l'opinion publique aussi. Celle-là, il y a une dimension politique, la justice elle-même. Dans sa conception de la justice, oui. Il est complètement pascalien. Hein, Pascal Exactement. Qui dit que c'est la force qui fait la justice, qu'au fond, lorsqu'on se rend compte que les lois sont absolument arbitraires, et ben cela n'y change rien, puisque elles sont basées sur la force. Ce qu'il dit de la justice, hein, il n'aurait pas lié le nom de justice si ces choses-là n'étaient pas. C'est une manière de pointer le caractère contingent de la justice et donc des lois humaines.
Tout à fait. Et d'ailleurs, l'énoncé de ce qu'il dit quand on veut être juste, eh bien, il y a des verdis. Or, le verdi lui-même, il est déjà dans une sorte de contradiction, mais au niveau de son énoncé, avec lui-même. Et c'est donc une illusion de pouvoir assigner la justice là où on prétend pouvoir se la représenter. C'est-à-dire, dans le verdict, dans l'énoncé, on pointe une réalité qu'on substitue. On pourrait dire qu'on hypostasie comme étant la réalité du crime, de la punition, etc. Mais avec une analyse du langage qui est utilisée dans un tribunal, eh bien, on est soudain incité à se demander si ce qu'on prétend être juste et vrai n'est pas tout simplement la partie visible de quelque chose qu'on se cache. Je n'hésite pas à dire qu'il y a une forme de refoulement dans notre pratique du langage. Ça paraît être un peu anachronique, mais quand on lit Héraclite, on ne peut pas s'empêcher. Il pointe, par exemple, je ne veux pas me faire mon lacanien là, mais c'est comme si à un certain moment, il intervenait dans le langage pour dire « Mais là, tu as dit quelque chose que tu n'as pas entendu ». Eh bien, ce que tu veux dire, eh bien, est destiné à cacher ce que tu dis en réalité. Eh bien, toutes les interventions d'Héraclite en cette structure-là, d'où leur valeur intemporelle, parce qu'elles sont absolument paradigmatiques et n'ont rien à voir avec une métaphysique quelconque, avec une volonté de dire la nature des choses, leur essence, comme un devenir inexorable, avec tout ce que ça entraîne comme attitude, plus parfois défaitiste, on pleure, tantôt héroïque, parce qu'on assume, ça c'est Nietzsche. Non, ça n'a rien à voir avec une métaphysique. C'est plutôt très proche de la pratique des sophistes, qui, eux, considèrent que le langage permet de produire du réel.
Ce qui signifie que derrière l'un, UN, qui serait comme le principe premier, on l'a vu chez Parménide, il faut entendre non pas, disons, un 1 qui serait celui de la totalité, de la totalisation même du réel, mais au contraire, le 1 de l'unicité, de la singularité.
Exactement.
C'est quand même renverse la lecture traditionnelle.
Mais oui, et donc c'est terrible parce que c'est vraiment d'Héraclite dénonce quelque chose que ceux qui les ont lus pendant des siècles pratiquent. Et donc c'est une sorte de trahison absolue, mais elle est induite par le fait que Héraclite répète ce que les gens disent en déplaçant l'accent, en jouant sur les mots pour montrer la contradiction dans la diction. Eh bien, ceux qui lisent ça reprennent ce que Héraclite dénonce et le lui prête. Eh bien, ça a quelque chose de à la fois tragique et de comique. Parce que Héraclite, en réalité, dans la mesure où il n'a pas de vérité à lui, puisqu'il dit que toute spéculation est d'une certaine manière condamnée par le fait que le langage lui joue le tour qu'on a décrit là. Eh bien, il ne va pas se mettre maintenant à dire « je connais la totalité du réel, je vais vous dire ce que c'est », etc. Non, il ne peut pas. Mais celui qui le lit dans la tradition qui est née très très tôt, mais que les stoïciens ont en réalité cimenté.
C'est ça, c'est la lecture stoïcienne.
C'est la lecture stoïcienne pour laquelle le logos, c'est le cosmos, c'est la loi du tout, et le feu, c'est dans l'embrasement final, le retour de l'un à lui-même. Et pour Héraclite, ce retour totalisant à soi est impossible. Nous sommes fêlés, nous sommes séparés de nous-mêmes, nous sommes dans le langage irrémédiablement réduit à constater qu'on ne peut pas recoller le réel de manière à ce qu'il devienne une représentation homogène, parfaitement rassurante.
D'où les fragments.
D'où les fragments, qui sont eux-mêmes la trace de ce geste. Oui.
Go on, get your thing together, brother. You got it together. Well, I'm gonna love you.
Merci à vous, Heinz Wissmann, d'être venu nous parler d'Héraclite aujourd'hui. C'est quand même assez impressionnant en vous écoutant de se dire qu'il y a eu des siècles et des siècles de contresens sur Héraclite. Alors, je ne sais pas, peut-être certains auditeurs penseront que les autres avaient raison. La discussion est ouverte, on vous fera suivre les messages.
Voilà, chacun pourra en faire son miel. Et la puissance de ce qu'on appelle la tradition ne se dément jamais. Héraclite serait le premier à le souligner en disant « ça renaît toujours ». Et son intervention, désabusée, sarcastique, doit éternellement être recommencée.
Alors j'invite les auditeurs à lire votre traduction et le commentaire que vous en proposez avec Jean Bollack, « Héraclite ou la séparation », un livre disponible aux éditions de Minuit. Bonjour Heinz Wissmann.
Bonjour.
Quel bonheur de commencer cette année en votre présence. Et vous avez interrompu vos vacances pour venir nous parler à ce micro aujourd'hui.
Je le dois à Héraclite et à cette émission.
En tout cas, cette émission vous est infiniment reconnaissante, Héraclite, je le pense aussi. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, du programme d'enseignement et de recherche sur l'épistémologie des sciences humaines. Vous avez publié en 2001 aux éditions de Minuit avec Jean Bollack, Héraclite ou la séparation. Et c'est la voix de Nina Simone, cette voix chaude, mélancolique et sincère, qui installe l'humeur propice à cette émission. Tout change tout le temps, vivre c'est sans cesse se renouveler. Et c'est parfois un drame pour nous qui voulons que les choses durent un peu. C'est le constat que l'on fait en lisant ce qu'on appelle les fragments d'Héraclite, Heinz Wissmann.
Enfin, c'est un constat tout à fait ambigu, parce que d'un côté l'accent est mis sur le changement incessant, et de l'autre, quand on regarde les fragments de près, il y a une insistance singulière sur la stabilité du rapport entre les contraires. Donc il s'agit de penser Héraclite à partir de ces deux constats. Il y a un mouvement incessant qui emporte tout et qui fait que la vie, aussi bien que le cours du monde, ne sont pas identifiables à quelque état stationnaire. Mais en même temps, ce mouvement est dû à quelque chose qui semble tout à fait être son contraire, dans la mesure où Héraclite considère que le logos, le discours, le rapport, eh bien, c'est un rapport d'opposition stable.
Donc il y a à la fois un changement permanent et une opposition stable.
Voilà. Et donc, la métaphore du fleuve qui a donné naissance à cette idée que tout s'écoule.
Donc on n'entre jamais deux fois dans le même fleuve. Voilà. C'est une phrase qui est toujours citée quand on prononce
Exactement.
Le nom d'Héraclite, on pense à cette phrase.
Mais cette métaphore du fleuve oblige de penser en même temps la pression des deux rives qui représente la coïncidence des contraires. Puisque les deux rives, d'une certaine manière, c'est la même réalité, mais opposée. Et donc le même est opposé à lui-même. Il y a une sorte de tension interne à l'identité. L'identité se sépare d'elle-même, d'où le titre de notre édition. Eh bien, c'est cette pression qui permet à l'eau de prendre une direction. Sinon, l'eau se répandrait et finalement formerait une sorte de marécage. Alors, pour qu'il y ait flux, il faut tension. Pour qu'il y ait tension, il faut pression. Et cette pression est exercée par les contraires dans la pensée d'Héraclite. D'où la similitude extraordinaire des métaphores du fleuve et de l'arc, et de la lyre. C'est-à-dire, les deux rives du fleuve correspondent aux deux extrémités de l'arc que tend la corde, et c'est grâce à la tension qu'exercent les deux extrémités du bois que la flèche peut partir. De la même manière, la lyre, il y a un fragment où Héraclite fait le rapprochement expressément. Il appelle ça l'harmonie palintropos, c'est-à-dire qui va d'un côté à l'autre, hein, qui retourne sur elle-même, palintropos. Eh bien, lorsqu'on joue de la lyre, on pince la corde et les sons s'élancent exactement comme la flèche de l'arc. Ce qui fait que dans l'univers d'Héraclite, on a les deux. On a une stabilité absolue qui fait que, d'une certaine manière, ce qui se passe est contenu dans un rapport de contradiction qui est en même temps un rapport d'identité. C'est le même, d'une certaine manière, qui s'oppose à lui-même pour créer cette tension.
Alors, on a 50 minutes quasiment pour essayer de déplier ensemble ce que vous venez de dire, Heinz Wissmann. La lecture des fragments d'Héraclite provoque chez le lecteur un effet assez indescriptible. Il se trouve face à ces fragments comme face à autant de vers quasiment malarméens où la lecture interpelle et illumine tout en obscurcissant ce qui se trouve devant soi. C'est très étrange, très simple. On va entendre un extrait des fragments tout à l'heure. Ce sont juste quelques phrases, parfois trois mots, qui en disent énormément. Mais peut-être juste un mot sur ce qu'on appelle ces fragments. Ces fragments n'en sont pas vraiment parce qu'il n'y a pas un tout homogène qui aurait volé en éclats. Ce sont en fait des recollections de certaines phrases traduites et relues par des commentateurs postérieurs à Héraclite. D'Héraclite, on ne sait rien, si ce n'est qu'il a vécu au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est ça?
Tout à fait. Non, mais chaque fragment, et le mot fragment d'ailleurs trompe, puisque ce ne sont pas des fragments d'un tout qui auraient été défaits. Chaque fragment est une flèche, au sens où Héraclite entend le mouvement. C'est-à-dire, l'impact du fragment est l'essentiel. Il produit chez celui qui le reçoit une sorte d'effet de sidération qui fait qu'il est à la fois atteint au centre et comme déchiré parce que ces fragments produisent très souvent un effet contraire à celui auquel on s'attend. Je prends un exemple, juste le plus drôle, parce qu'il y en a, ça ressemble pas à de la philosophie. Par exemple, le fragment où il dit que les cochons s'amusent sur le fumier. Eh bien, tout dépend de la manière dont on accentue, et c'est vrai pour beaucoup de fragments, dont on accentue les mots. Imaginons le père qui voit son fils se salir en mangeant. Donc, il va dire, c'est les cochons qui s'amusent sur le fumier parce qu'il le qualifie de cochon. Et le fils va lui répondre, mais les cochons s'amusent sur le fumier. Or, ce fragment d'Héraclite a été repris par Démocrite qui a accentué le verbe s'amuse en le remplaçant par un verbe plus fort, font les fous. Et donc, il y a la parole du père, il y a la parole du fils. Et dans la plupart des fragments, il y a la parole d'autorité, qui viennent donc de la tradition philosophique déjà amorcée depuis à peu près un siècle, et la contestation héraclitienne de la pertinence de ce que disent ces grandes cosmologies, ces grandes éthiques philosophiques. Et donc le fragment flèche produit par son impact une sorte de petite déflagration qui nous sépare de nos certitudes.
On retrouve donc, le terme séparé qui vous est
voilà,
si cher.
Il faut avoir l'oreille fine. Et en fait, ça c'est le travail du philologue, les fragments d'Héraclite admettent toujours, par leur syntaxe extraordinairement élaborée, deux lectures. Une lecture simple, qui correspond tout simplement à l'opinion reçue, et une lecture qu'on peut appeler contradictoire au sens étymologique du terme, puisque le fragment dit le contraire de ce qu'il dit.
Bon, on va prendre un cas particulier. Voici quelques fragments dans votre traduction et celle de Jean Bollack, évidemment, hein, Heinz Wissmann, interprété par le comédien Georges Kless.
Le monde, le même parmi tous. Pas un, ni Dieu, ni homme ne l'a fait. Mais toujours il était, il est et il sera. Feu toujours vivant qui s'allume suivant la mesure, et suivant la mesure s'éteint. Dans les mêmes fleuves, nous entrons et nous n'entrons pas. Nous sommes et nous ne sommes pas. Se transformant, il se repose. C'est le même qui est là, vivant et mort. Vivant, mourant, la veille et le sommeil, qui sont jeunes et vieux. Car ces choses-ci se renversant, ce sont celles-là. Et celles-là se renversant à leur tour, celles-ci. On ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve. Je me cherche.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h11, c'est la rentrée sur les chemins. Nous parlons de changement, de renouveau cette semaine avec aujourd'hui une émission sur Héraclite, Héraclite ou la séparation. C'est le titre que mon invité Heinz Wissmann, du livre que mon invité Heinz Wissmann a écrit avec Jean Bollack aux éditions de Minuit. Nous parlons donc des fragments d'Héraclite. Et dans les extraits que nous venons d'entendre, interprétés par Georges Kless, nous avons plusieurs images qui reviennent tout au long de ces fragments, celle du feu. On va y revenir, Heinz Wissmann, puisque c'est du feu que tout part chez Héraclite, et celle du fleuve et de la transformation à travers les contraires. Restons un instant sur cette image du fleuve, c'est la plus connue. On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve, on ne peut pas entrer deux fois dans le même fleuve, traduisez-vous. Comment comprendre cette image du fleuve? Est-ce qu'on peut identifier le fleuve, par exemple, à une vie individuelle? Et dire que finalement, chaque moment de notre vie est distinct du précédent. Et ce serait une pensée de la singularité absolue, non seulement de la vie individuelle, mais de chaque moment.
En réalité, il y a, dans ce que nous possédons, il y a trois fragments sur le fleuve. L'un décrit le cours des choses, c'est-à-dire c'est le monde entier qui est représenté par la métaphore du fleuve. Et ça, c'est la fameuse phrase, on n'entre pas deux fois dans le même fleuve. C'est-à-dire les choses n'entrent pas deux fois dans le même fleuve, qui est le cours des choses. Mais en même temps, les individus que nous sommes, eh bien, si nous entrons dans le fleuve, eh bien, il y a d'autres eaux constamment qui affluent. Et nous sommes comme traversés dans la vie humorale, c'est-à-dire la vie qui fait que nous sommes liquides, eh bien, nous sommes emportés. Et puis, il y a un troisième fragment qui dit que pour ces choses-là qui entrent dans le fleuve, c'est-à-dire nous, puis d'autres, et peut-être même les arbres, les animaux, qui entrent dans le fleuve de l'existence, eh bien, ils sont et ils ne sont pas. Pourquoi ils sont et ils ne sont pas? Parce que, alors nous sommes et nous ne sommes pas, parce que nous ne sommes pas stables. Nous ne sommes pas, de manière simpliste, ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous devenons à chaque instant.
Nous sommes toujours autres que ce que nous sommes.
Mais à partir de quelque chose que nous sommes. Parce que s'il n'y a pas quelque chose d'identifiable, le changement n'aurait aucun sens.
C'est ça. Pour que changement puisse y avoir, il faut qu'il y ait au moins une base stable qui, elle, ne change pas pour pouvoir constater ce changement.
Voilà, exactement. Et donc, c'est ça l'image du fleuve qui fournit, donc, avec la pression des rives, la stabilité qui, paradoxalement, n'est pas repos, mais source de mouvement. Et à la différence de la plupart des présocratiques, Thalès en tête, qui disait « tout est eau », alors là aussi, on est dans l'eau. Eh bien, à la différence des présocratiques, Héraclite considère que le principe, ce que les présocratiques appelaient l'arché, c'est-à-dire le commencement et le commandement, parce que le mot signifie les deux, eh bien, n'est pas en repos. L'arché, au contraire, est elle-même tendue. À cause de cette tension, elle génère elle-même le mouvement qui l'altère. La différence entre Thalès et Héraclite est frappante, et là, c'est la métaphore du feu. L'eau, par exemple, ne devient terre que par une condensation qui lui est appliquée du dehors, devient air, et puis feu, que par une raréfaction qui se produit du dehors, tandis que le feu, comme métaphore du logos des contraires, a la particularité qu'il est deux à la fois. Quand il flambe vers le haut, il laisse descendre vers le bas. Et c'est ça le sens de la phrase, le chemin vers le haut, le chemin vers le bas, un et le même.
Donc, voilà, peut-être que pour essayer de comprendre si ça paraît trop abstrait à certains de nos auditeurs, parce que ce sont des considérations qui sont lourdes de sens et qui ont ouvert la voie vers des considérations métaphysiques de Platon jusqu'à Nietzsche et encore aujourd'hui, on peut ramener ce que dit Héraclite à une réalité qui est celle des éléments, en fait. Eau, air, terre et feu. Et le rapport entre ces éléments explique ce que vous dites et ce que dit Héraclite, à savoir comment deux contraires qui s'opposent vont produire un changement perpétuel. Dans le cas du feu, c'est flagrant. Vous dites que la flamme s'élève vers le haut, les cendres redescendent, et c'est de ces deux contraires, de ces deux mouvements contradictoires que naît le feu.
Voilà. Et d'ailleurs, pour bien comprendre le fragment étrange, chemin vers le haut, chemin vers le bas, un et le même, il faut simplement se représenter le mouvement vers le haut que nous accomplissons, et nous produisons le chemin vers le bas en montant, puisqu'on laisse derrière soi la trace du chemin parcouru. Et c'est vrai que quand on avance, d'une certaine manière, on ouvre la perspective du recul. Et c'est ça que le feu représente comme métaphore du logos des contraires, puisque le feu, il va à la fois vers le haut et vers le bas. Et il y a deux mots qui représentent ces particularités dans le mouvement du feu. C'est la faim, ça c'est quand le feu flambe, et c'est la satiété, c'est quand le feu s'éteint dans les cendres. Eh bien, ce fragment, qui n'est pas un fragment, mais une citation faite par un père de l'Église, Hippolyte, eh bien, est réinterprété, et c'est là qu'il y a le piège, est réinterprété par les chrétiens, de manière à ce que le feu n'est pas lui-même quand il flambe et laisse un dépôt mort qui est sans les cendres, mais le feu, comme l'eau, comme l'air des présocratiques précédents, eh ben, il sera un jour auprès de lui, dans une boule de feu, qui n'aura plus de contraire. Ça, c'est la fameuse ekpyrose des stoïciens, qui a été ekpyrose,
c'est
l'embrasement final du monde, qui a été assimilé par les chrétiens au jugement dernier, ou au feu de l'enfer, si on veut. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que dans la citation du père de l'Église, le feu a faim quand il est aliéné dans le monde.
Et au moment où vous parlez du feu, votre bouteille d'eau se renverse sur la table. C'est l'eau qui revient.
Il est rassasié quand elle est revenue à lui-même et qu'il n'y a plus rien d'autre que le feu. Eh bien, j'ai acquis que c'est le contraire. Le sens de la faim, c'est quand le feu dévore le combustible. Et le sens de la satiété, c'est quand le feu s'éteint dans les cendres. Et on a des fragments extraordinaires où le koros, qui est le mot qui désigne la satiété, apparaît comme quelque chose qui caractérise les gens qui n'ont plus aucune ambition. Et il y a le fameux fragment 29 qui dit que les meilleurs d'entre les humains vont s'élancer vers l'un, vers le haut, vers la particularité qui est la leur, alors que la foule gît replète comme du bétail. Or, gît replète, c'est kekorentai, c'est le koros, c'est la satiété. Alors, nous ne vivons que si nous avons faim. Pour Héraclite, la tension entre la faim et ce qui reste une fois qu'on a dévoré de quoi alimenter la vie, l'élan de la vie, eh bien, cette tension est constitutive de notre existence, et le feu en est la métaphore.
Thank you.
Into the Fire, c'est ce que nous sommes en train de faire en compagnie d'Héraclite, pour qui le feu est à l'origine de toute chose, et en compagnie d'Heinz Wiesmann, le philosophe Heinz Wiesmann, qui est avec nous en studio pour en parler. Into the Fire, c'est Deep Purple qui le chante, et voici la voix de Gaston Bachelard qui, à sa manière, nous décrit ce que le feu nous fait.
Pour le feu, comme pour l'eau, on peut d'abord faire état d'un accord unanime sur la poésie naturelle du feu. Avec le spectacle du feu, nous recevons une poésie exubérante, une poésie native, à laquelle aucune âme ne reste indifférente. L'imagination ne se contente pas d'un tableau, elle veut une figure de destin. Le feu est une telle figure de destin. Il naît, il meurt, il est un drame. Et voici que, comme l'eau des profondeurs, le feu appelle un vertige. Il y a un vertige de feu, comme il y a un vertige de la mort dans l'eau. L'eau et le feu sont vraiment des patries de la mort. Le feu est la plus grande image, la plus complète image de l'anéantissement.
La voix de Gaston Bachelard sur France Culture, c'était en 1952. Aujourd'hui, en 2017, il est 10h20. Et cette voix de Gaston Bachelard, Heinz Wiesmann, nous signale, c'est finalement une bonne lecture de ce que dit Héraclite du feu, quand il parle du feu comme figure du destin, comme étant la plus complète image de l'anéantissement. Il faut garder en tête quand même que Héraclite est le premier penseur, philosophe, à se saisir du feu comme moteur du monde.
Donc l'anéantissement n'est que l'un des extrêmes qui s'oppose, car le feu est tout autant la vie. L'anéantissement, c'est les cendres, la vie, c'est la flamme.
Bachelard a un Héraclite pessimiste.
Bachelard a un Héraclite marqué par la tradition chrétienne. L'ekpyrose stoïcienne, c'est-à-dire l'embrasement final qui marque la fin du monde, eh bien ça c'est un destin pensé à partir de la tradition chrétienne. Pour Héraclite, il n'y a pas d'embrasement final du monde. Le feu va saisir toute chose, mais pour revivifier sans arrêt les choses qui risquent de rester dans la satiété du repos, inertes. Il y a cette tension que le feu entretient, c'est en ce sens qu'il est comme le ressort intime de tout ce qui advient.
Et d'où vient-il ce feu? A-t-il une origine?
C'est une réinterprétation de ce que les prédécesseurs d'Héraclite avaient soutenu, à savoir que le principe, qui est le commencement et le commandement de toute chose, eh bien, c'est un élément. L'eau pour Thalès, l'air pour Anaximène. Héraclite dit, mais l'eau et l'air, eh bien, permettent de penser l'identité immobile de l'élément qui est rassemblé autour de lui-même et qui ne s'altère que par l'intervention d'un principe qui vient du dehors, la condensation et la raréfaction dans les deux cas. Eh bien, chez Héraclite, c'est le principe lui-même qui, en tant que contradiction, produit les conditions d'une altération infinie. S'il y avait, et le feu a cette particularité que le feu n'existe pas si on isole la flamme de ce qu'elle dévore. Si on veut
le
s'imaginer
feu pourrait être besoin de consommer quelque chose, de consommer.
Et donc le feu
chose.
Est en contradiction avec lui-même, sans arrêt. Tandis que la boule de feu que les stoïciens et les chrétiens se sont imaginés à l'image de la boule d'eau ou de la boule d'air de Thalès. Cette boule de feu n'est absolument pas ce que Héraclite entend par le feu. Puisque le feu, pour vivre, a besoin d'engendrer la mort. Puisque en consumant le combustible, le feu vit de la mort. Et c'est ça, la coïncidence des contraires. Nous sommes et nous ne sommes pas. Nous ne vivons que si nous ne vivons pas ou si nous faisons quelque chose qui nous entraîne vers la mort.
Le feu ne naît que s'il tue, que s'il consomme autre chose.
Exactement.
Et en même temps, le feu ne doit jamais advenir complètement. Enfin, si le feu est repu, il n'est plus.
Il n'est plus.
Mais donc c'est ça. En fait, le feu est comme une image du désir. Le désir ne peut exister que s'il manque, il y a. Quand le désir est satisfait, il n'y a plus de désir.
C'est exactement ça. Et on peut même, alors, pour tracer encore des parallèles avec une pensée contemporaine, la différence entre le signifiant et le signifié, par exemple. L'idée que le signifiant n'est jamais totalement représenté par le signifié qu'il vise. Il excède toujours le signifié.
Donc le signifiant, c'est le signe, et le signifié, c'est ce vers quoi renvoie le signe, voilà. Pour faire court.
Et donc, ce qu'il y a, et c'est la théorie du logos comme discours chez Héraclite. On a oublié, avec la cosmologie du feu, c'est une métaphore. Mais il y a une deuxième métaphore qui a été importante pour les sophistes, c'est que le réel, c'est le fonctionnement du langage, logos. Ce n'est pas la raison universelle, comme on l'a voulu penser. Le logos, c'est ce qui se produit quand je parle. Or, quand je parle, je vise avec les mots quelque chose que je me représente, mais les mots que j'utilise excèdent toujours, à mon insu, ce à quoi ils se réfèrent. Et c'est ça, la pensée héraclitéenne utilise donc à la fois le feu qu'il emprunte à la cosmologie traditionnelle pour faire dire aux principes autre chose que les principes antérieurs représentés, à savoir une identité immobile. Chez Héraclite, non, c'est une tension qui engendre le mouvement. Et la même chose et pour le logos, c'est lorsque le discours se déploie, eh bien, il entre invariablement en contradiction avec lui-même.
Mais ça, c'est lourd de sens ce que vous êtes en train de dire. Il faut essayer de prendre la mesure dans l'histoire de la philosophie de cette thèse héraclitéenne,
voilà,
selon laquelle le langage ne coïncide pas avec le monde. Ça va à l'encontre de la philosophie qui lui succédera, notamment la philosophie platonicienne, qui postule que le logos, l'intelligence, peut dire ce qui est, qu'il n'y a de vérité qu'intellectuelle. Héraclite dit l'inverse. Il dit, nous sommes séparés du monde. Le langage n'est jamais que le langage lui-même, il ne renvoie pas à une réalité ontologique. Ça, c'est voilà. Bouleversant presque de le dater ici, parce qu'Héraclite est le premier à l'affirmer.
Le premier à l'affirmer, ça va être repris par Démocrite et puis par des philosophes. Nicolas de Cuse, c'est très intéressant. Il y a énormément d'héritiers d'Héraclite, mais c'est de la spéculation très élevée. Il ne faut pas croire que c'est simplement de dire oui, tout fout le camp. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dégage une structure contradictoire du réel, quel qu'il soit, et ça s'arrête jamais. On ne peut jamais se reposer sur l'un des deux termes, puisqu'il est toujours relancé par son contraire. Alors, ce qui est si intéressant, je donne cet exemple parce que je trouve que c'est le plus parlant, c'est le fragment dans lequel il dit que le nom de l'arc est vie et son œuvre mort. Eh bien, pourquoi dit-il ça? Parce que dans la langue archaïque, le nom de l'arc, c'est bios, avec un accent sur l'oméga, bios. Et bien, bios, c'est la vie. Or, le paradoxe du langage, c'est quand je désigne un arc pour dire l'instrument de la mort, eh bien, j'utilise un mot sans l'entendre qui veut dire vie. Et donc, le langage fonctionne comme le feu. C'est-à-dire, il entre en tension contradictoire avec lui-même, et beaucoup de fragments d'Héraclite ne sont là que pour attirer l'attention, que l'on n'entend pas vraiment ce qu'on est en train de dire.
On parle de scepticisme aujourd'hui.
Mais scepticisme, c'est encore une position absolue qui ne permet pas, ce que Héraclite prétend quand même atteindre, ne permet pas d'atteindre une structure génératrice de tout sens.
Ah, parce qu'il, oui, il y en a une chez
Héraclite, c'est le feu. Il y a une structure, c'est la structure du logos, ou du feu, de l'arc, ou du fleuve, où chaque fois une pression des contraires rend compte, mais par sa stabilité.
Parce qu'il y a une cosmologie, en fait.
Il y a une cosmologie qui naît de cela, puisque d'une certaine manière, la transformation des éléments les uns dans les autres est commandée par cette tension originelle. Et cette tension originelle, il ne faut pas la séparer de ce qu'on dit quand on dit pantarei, tout s'écoule. Parce que tout s'écoule pas tout simplement. Il y a une espèce de principe de l'écoulement, puisque l'écoulement en tant que tel, ça veut rien dire, puisque pour qu'une chose change, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, sinon il n'y a pas de changement. Et donc chez Héraclite, il y a les deux. Et c'est le plus difficile. Or, c'est Platon, si vous permettez, je voudrais quand même dire ça. Dans le dialogue le Cratyle, c'est absolument extraordinaire parce que Cratyle se dit héraclitéen et il soutient que le langage reproduit le flux.
le flux universel. Même les noms des dieux ne veulent dire que l'instabilité du réel. Et Socrate renchérit sur cette thèse du sophiste Cratyle en disant, oui, ton Héraclite, il aurait dit que tout fout le camp, rien ne demeure. Et l'idée d'une théorie générale du flux vient de là. Platon est le premier interprète d'Héraclite qui met l'accent, mais pour rendre la thèse ridicule, puisque le Cratyle se termine par l'abandon de cette thèse. Eh bien, dans le sophiste,
l'autre dialogue de Platon,
Platon met l'accent sur la tension des contraires et pas sur le flux. Et donc, il a dissocié dans deux dialogues pour combattre la thèse du sophiste, la thèse du flux, ça c'est le Cratyle, et la thèse de la stabilité absolue entretenue par la tension des contraires. Et c'est très intéressant, si on ne les met pas ensemble, c'est-à-dire si on ne met pas le flux ensemble avec la stabilité de la tension des contraires, on rate la pensée d'Héraclite qui a été littéralement démembrée par Platon. Il a pris les deux éléments, il les a traités séparément pour montrer que si on les prend séparément, eh bien, ça ne donne pas une bonne philosophie.
Heureusement, on peut compter sur d'autres philosophes postérieurs à Platon qui ne sont pas forcément d'accord avec lui pour rendre justice à Héraclite. Nietzsche en fait partie. Voici un texte que Nietzsche consacre à Héraclite où il décrit très bien comment finalement au principe de toute chose se trouve le feu, certes, mais surtout un conflit. Les contraires, une lutte, dit-il, deux lutteurs qui sans cesse se battent et parfois l'un gagne, parfois c'est l'autre. Et pour lui, c'est une pensée typiquement grecque et typiquement présocratique. Écoutez ce texte magnifique interprété par Georges Classe.
L'opinion commune croit reconnaître quelque chose de fixe, d'achevé, de constant. Alors qu'en réalité, lumière et obscurité, amertume et douceur sont à chaque instant associés et reliés l'une à l'autre comme deux lutteurs dont tantôt l'un, tantôt l'autre prend l'avantage. Pour Héraclite, le miel est à la fois amer et doux, et le monde est lui-même une coupe à mélange qui doit être constamment agitée. Tout devenir naît de la lutte des contraires. Les qualités définies, qui nous semblent durables, n'exprime que la suprématie momentanée de l'un des combattants, mais la lutte n'en continue pas moins. Le combat se poursuit, éternellement. C'est en fonction de ce combat que tout ce qui se produit advient, et c'est précisément ce combat qui révèle la justice cohérente et sévère liée à des lois éternelles. Seul un Grec était en mesure d'inventer une telle conception pour en faire le fondement d'une cosmodicée.
Ce voyage en terre lointaine, présocratique, au pays des lutteurs, au pays où le miel est à la fois amer et doux, c'est en compagnie d'Héraclite que nous le faisons sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h33, et en votre compagnie, Hans Wiesmann. Si on essaye de retracer le chemin que nous avons parcouru pendant la première partie de cette émission, si on part de l'expression bien connue, on n'entre jamais deux fois dans le même fleuve, ça veut dire que le fleuve est un flux permanent. Or, ce flux permanent, pour Héraclite, et c'est assez logique, doit naître de quelque chose qui est l'opposition entre les deux rives, sorte de deux contraires qui s'affrontent et qui font jaillir ce flux qui est ce changement permanent. Pour que changement permanent il puisse y avoir, il faut bien qu'il y ait une chose qui ne change pas pour pouvoir identifier le changement. Le feu est cette image du changement puisqu'il est à la fois sans cesse en train de brûler, en train de consommer, en train de tuer quelque chose. Il se nourrit de ce qu'il tue, donc il est la rencontre des deux contraires. Et ici, nous avons ce texte de Nietzsche. Vous disiez que c'était un des plus beaux textes de l'histoire de la philosophie qui soit écrit sur Héraclite. Et en effet, il est vraiment magnifique. Qui semble, lui, dire très simplement comment les contraires, comment une opposition entre deux instances est à l'origine de tout. Il y a quelque chose presque de rassurant de pouvoir identifier l'origine de tout. C'est ça, peut-être, ce que les présocratiques ont de plus que nous, même que Nietzsche à l'époque, c'est qu'il y a une origine. On peut quand même s'appuyer sur quelque chose.
Enfin, s'appuyer, c'est peut-être un peu trop...
C'est ce qui empêche de tomber dans le scepticisme, en tout cas, ou dans le pessimisme.
Enfin, on peut s'appuyer sur une intelligence des choses, alors qu'on est emporté par le cours des choses. Et on est comme le feu. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas ne pas être entraînés dans ce qui nous emporte, mais par l'intelligence de ce qui est en train de se passer, nous pouvons parvenir à ce point fixe à partir duquel le mouvement dans lequel nous sommes emportés devient intelligible. Et c'est donc pas une sorte de repos existentiel, c'est simplement un exploit de la pensée. Or, l'exploit de la pensée, c'est ça que vous voulez dire quand vous dites que les présocratiques nous fournissent quelque chose qui n'a jamais existé sous cette forme. Et si vous me permettez, je voudrais la caractériser, cette chose étrange qui est de pur esprit ou de pure intellection. Eh bien, dans toutes les grandes civilisations du monde, on essaye de rendre compte de la diversité changeante des phénomènes en les rattachant progressivement à des principes, jamais à un principe. C'est-à-dire les plus hautes civilisations parviennent jusqu'à des dualismes. Le Yin et le Yang en Chine, ou le Ahriman Hormuz en Perse, etc. On a ce que Lévi-Strauss appelait les binômes. Dans l'analyse structurale, par exemple, on pouvait rendre compte de la diversité extraordinaire des manifestations de deux principes. Masculin, féminin, chaud, froid,
bien
haut,
mal.
Bas, bien, mal, etc. Or, Thalès, et ça c'est le geste révolutionnaire des Grecs.
Thalès, c'est avant Héraclite ?
Thalès, c'est 7e siècle.
7e siècle.
Fin 7e siècle. Non, Thalès de Milet, c'est Asie mineure, excentré par rapport à la Grèce, hein, c'est les colonies. Et bien Thalès dit... Tout, et là je cite Nietzsche dans le même texte, la naissance de la philosophie à l'âge de la tragédie grecque. Or la tragédie c'est cette tension héraclitéenne dont la citation qu'on a écoutée tout à l'heure fait état. Eh bien Thalès, dit Nietzsche, impose un credo métaphysique. Or le credo métaphysique c'est que tout est un et pas deux. Tout est un. Or le problème de cet un, c'est que on doit expliquer comment il devient multiple. Parce que si l'être est un, identique à lui-même, qu'est-ce qui fait que nous sommes entourés de gens et de choses qui changent ? Eh bien, les premières explications sont un peu sommaires. Thalès, c'est ça l'idée de la raréfaction, de la condensation, il dit qu'il y a une espèce de tension qui, du dehors, s'applique à ce principe qui se diversifie et qui devient dans les autres éléments et le reste. Chez Anaximène, c'est pareil avec l'air. Mais Héraclite, il va accentuer cette idée qu'à l'origine des choses, il y a quelque chose à comprendre ou à saisir ou à se représenter difficilement, qui produit à la fois son identité et son altération. C'est ça le logos, le feu.
Il permet de penser ensemble l'un et le multiple.
Voilà, le multiple sort de l'un. Et ce n'est pas du dehors qu'il a été produit. Comme chez Empédocle, où c'est l'amour et la haine. L'amour fait que les choses se condensent, la haine fait que les choses se dispersent. C'est toujours la même idée que Héraclite récuse en considérant que la tension constitutive de tout devenir est déjà inscrite dans le principe. Le principe n'est pas repos. Le principe est tension, combat, d'où la phrase « la guerre ou le conflit, le combat est le père de toute chose ».
Et d'où la phrase sublime, c'est le fragment 84, « Se transformant, il se repose ».
C'est ça.
Ce qui est complètement contre-intuitif. On identifie aujourd'hui le repos à l'immobilité. Ici, Héraclite nous dit que non, c'est la transformation qui amène le repos. Comment est-ce qu'on comprend ça ?
Mais parce que dans la transformation, lorsqu'on a l'intelligence de ce qui se passe, eh bien, on est comme la flèche, la fameuse flèche de Zénon, qui à la fois vole, mais qui est en repos à chaque instant du vol. Et pour Héraclite, c'est une façon toujours très métaphorique, très imagée, de nous représenter la façon dont, par l'intelligence, nous pouvons accéder à un principe qui, en dépit de ce qui nous arrive constamment, à savoir les altérations d'humeur et des changements divers, eh bien, nous ancre dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence. Ce n'est pas de l'ordre du vécu. C'est de l'ordre de l'accès à quelque chose que seule la pensée peut atteindre. Et là où Nietzsche, dans ce texte inachevé, qui place la pensée grecque à travers Héraclite, à l'époque de la tragédie grecque, eh bien là, on a un phénomène, je dirais, de réinterprétation culturelle, dans la mesure où, pour Nietzsche, les Grecs ne pensent que la tragédie de l'existence. La comédie en étant l'autre versant. Or, les fragments d'Héraclite, les fragments entre guillemets,
les aphorismes,
les apophthegmes d'Héraclite, sont à la fois tragiques et cocasses. Et si on ne perd, si on perd de vue qu'il se moque aussi constamment et que la tragédie a pour versant opposé, mais constitutif de son identité, la comédie ou enfin, le drame satirique, hein, puisque quand on représentait une tragédie à Athènes, ça se terminait toujours par une reprise satirique qui rendait ridicule ce qui nous avait fait pleurer. Et c'est proprement héraclitéen, hein, selon la pensée nietzschéenne, qui a quand même essayé, dès le départ, dès qu'il a commencé à interpréter Wagner, il a essayé de penser le dionysiaque et l'apollinien comme une tension héraclitéenne.
Le dionysiaque étant cette force obscure, sombre et créatrice, voilà. et l'aide est faite de désir et de pulsion, voilà. Quand l'apollinien est au contraire le masque de beauté, la forme et l'ordre.
C'est l'ordre.
Et dans la naissance de la tragédie, Nietzsche montre comment ces deux contraires, justement, produisent ce qu'on appelle l'esthétique telle que lui l'entend, que les deux sont nécessaires à l'existence.
Absolument. Et la tragédie, alors on peut toujours poursuivre encore cette réflexion sur le jeu des contraires. C'est ça que j'essaye de dire. C'est que qui dit tragédie? La tragédie elle-même vit déjà des contraires. Mais la tragédie est encore le contraire de quelque chose qui est en vers, qui est la comédie.
Donc, mais est-ce qu'on peut parler de dialectique, par exemple? On parle des contraires depuis le début.
Exactement. C'est dialectique, mais la dialectique, si on la prend au sens hegelien.
C'est-à-dire où une chose a besoin de son contraire qu'elle absorbe pour mieux exister. C'est-à-dire il y a une dynamique inhérente à la dialectique.
Pour être tout à fait clair, ce que Hegel considère comme dialectique, c'est la négation déterminée. C'est-à-dire, à partir de quelque chose que je nie, j'engendre son contraire, mais dans ce contraire, la chose niée est encore présente. Présente.
C'est ça.
Et donc, la négation déterminée permet ensuite ce qu'il appelle
d'incorporer
la synthèse, c'est Aufhebung en allemand, c'est-à-dire on peut, Aufhebung c'est extraordinaire comme mot, ça veut dire à la fois suppression et conservation, les deux. Et donc, cette dialectique hegelienne est une dialectique qui vise la clôture final, dans la mesure où la négation déterminée va peu à peu synthétiser l'ensemble de ce que nous pouvons identifier comme réalité.
Alors il n'y a pas de synthèse chez Héraclite.
Et si. Chez Héraclite, non.
Voilà.
Et donc la dialectique héraclitéenne, j'utilise un mot d'Adorno, hein, c'est une dialectique négative. C'est pas une dialectique, c'est une dialectique ouverte, proliférante. À l'infini, on peut, dans la réalité que nous essayons de comprendre, dénicher cette espèce de principe de tension qui fait qu'une chose est toujours en conflit avec son contraire et qu'il n'y a pas de synthèse possible. Ce qui résulte de la tension, au contraire, c'est un mouvement infini.
Alors, il y a mille façons de parler de la pensée d'Héraclite. On peut le faire en philologue, en philosophe, à partir de la dialectique négative ou déterminée hegelienne ou par Adorno, de manière très technique, de manière aussi très poétique. Écoutez l'hommage que René Char rend à Héraclite dans son magnifique poème « Héraclite des faits ». C'était en 1948. Hein. On trouve dans le texte « Recherche de la base et du sommet ». Écoutez ce texte.
« Héraclite savait que la vérité est noble et que l'image qui la révèle, c'est la tragédie. Il ne se contentait pas de définir la liberté. Il la découvrait indéracinable, attisant la convoitise des tyrans, perdant son sang mais accroissant ses forces, au centre même du perpétuel. Sa vue d'aigle solaire, sa sensibilité particulière l'avait persuadé, une fois pour toutes, que la seule certitude que nous possédions de la réalité du lendemain, c'est le pessimisme, forme accomplie du secret où nous venons nous rafraîchir, prendre garde et dormir. Le devenir progresse conjointement à l'intérieur et tout autour de nous. Il n'est pas subordonné aux preuves de la nature, il s'ajoute à elle et agit sur elle. Sauve est l'occurrence des événements magiques susceptibles de se produire devant nos yeux. Il bouleverse en enrichissant un ordre trop souvent ingrat. La perception du fatal, la présence continue du risque et cette part de l'obscur comme une grande rame plongeant dans les eaux tiennent l'heure en haleine et nous maintiennent disponibles à sa hauteur. Héraclite est ce génie fier, stable et anxieux qui traverse les temps mobiles qu'il a formulés, affermis et aussitôt oubliés pour courir en avant d'eux, tandis qu'au passage il respire dans l'un ou l'autre de nous.
France Culture, les chemins de la philosophie, ce texte de René Char sur Héraclite, Héraclite d'Éphèse, interprété par Vincent Schmitt, propose en une phrase peut-être le meilleur portrait que l'on puisse brosser d'Héraclite. Heinz Wissmann, il dit ceci, donc Héraclite est ce génie fier, stable et anxieux qui traverse les temps mobiles qu'il a formulés, affermis et aussitôt oubliés pour courir en avant d'eux, tandis qu'au passage, il respire dans l'un ou l'autre de nous. Ça a l'air si simple quand on lit René Char parce qu'il décrit, alors cette fois-ci non pas la pensée mise en œuvre par Héraclite, mais l'effet reçu par le lecteur.
C'est tout à fait ça. Et je trouve que les reprises d'Héraclite en poésie, alors René Char c'est plutôt ce versant-là, eh bien, sont plus adéquates en général que les reprises philosophiques qui isolent chez Héraclite soit l'élément de permanence qui est la tension des contraires, soit l'élément du changement qui, absolutisé, comme dans la formule « tout s'écoule », ben, finit par ne plus rien signifier. Parce que la pensée profonde d'Héraclite, c'est de mettre en relation ces deux moments, un moment de stabilité contradictoire et un moment d'altération irrépressible. Est-ce que vous m'autorisez à lire deux phrases de notre commentaire?
Ah ben prie,
parce que j'avais suggéré qu'on le fasse, parce que ça résume parfaitement. C'est dans le commentaire du fragment « On n'entre pas deux fois dans le même fleuve ». Eh bien, Héraclite établit la relation nécessaire entre ce qui demeure et ce qui s'en va. Ce qui demeure, c'est la tension des contraires, c'est le logos, le feu, tout, hein, et ce qui s'en va, c'est l'eau qui s'écoule dans le fleuve, dans le lit du fleuve. Donc, entre ce qui demeure et ce qui s'en va, entre le lit et le courant, comme pour l'arc. La tension immobile des contraires produit l'élan différencié du mouvement. Sans la courbure du bois qui maintient la corde, les flèches ne partiraient pas. Sans la pression constante des rives, les eaux stagneraient. Parce qu'ils illustrent également la construction logique du passage de l'opposition à la succession, l'arc et le fleuve servent de chiffre au processus cosmique. Je trouve que c'est intelligible.
Tout à fait. C'est une interprétation qu'on trouve dans le livre que vous avez publié avec Jean Bollac, hein, Héraclite ou la séparation aux éditions de Minuit. Et vous faites de cette séparation, parce que vous avez beaucoup insisté sur les contraires, la contradiction, les opposés qui s'affrontent, mais finalement c'est le terme de séparation qui saisit au plus près le geste d'Héraclite, qui est une séparation entre l'homme et le monde, mais aussi de l'homme à lui-même. Et peut-être on peut terminer sur cette idée, il y a chez Héraclite une pensée extrêmement intime, mais comme bien souvent ce sont les pensées les plus subjectives, les plus personnelles, qui sont les plus universelles, c'est-à-dire qu'il passe son temps à dire quand même à quel point il est séparé à lui-même.
C'est ça.
Et cette pensée du repos impossible est une manière de traduire cette sorte d'intranquillité qui nous anime, on parlerait d'angoisse aujourd'hui, d'inquiétude. Et il y a le fragment 101 qui le dit en une phrase, il dit « je me cherche ».
Tout à fait. Et peut-être pour finir, dans loufoque, parce qu'il y a des fragments loufoques, Héraclite aurait dit, le jour où il était couché dans le fumier pour se réchauffer par la chaleur de la décomposition des matières vivantes, près du temple d'Artémis en nord d'Éphèse, il aurait dit « couché le soleil à la taille de mon pied ». Or, dans la spéculation présocratique, on a toujours essayé de savoir si le soleil avait la taille apparente ou que sa taille véritable était cachée par son apparence, qu'il était 5 fois plus grand, etc. Eh bien, Héraclite, qu'est-ce qu'il fait? Couché, il lève son pied, il couvre l'image du soleil et il soutient que la vraie taille du soleil est celle de son pied qui la dérobe, puisqu'on ne voit plus le soleil. Et donc c'est le contraire du soleil qui lui assigne sa taille. Ça devient loufoque.
C'est une éclipse du pied, oui.
C'est le pied. Et alors, ce genre de phrase, je sais,
reprise par Spinoza plus tard, mais cette fois-ci avec la main, justement.
Avec la main, par exemple.
Ce qui est drôle ici, c'est qu'il se sert du pied.
Et c'est très intéressant de se dire que Héraclite est capable de nous suggérer que ce que nous reconnaissons, plutôt que de chercher spéculativement quelque chose qui serait positivement autre, il dit non, ce que nous reconnaissons comme étant, eh bien, nous le reconnaissons véritablement si on passe par son contraire. C'est ça la dialectique négative d'Héraclite. À travers le contraire, je saisis ce qui peut être identifié. Mais comme c'est à travers le contraire, il y a une tension. Et cette tension-là produit cet effet qu'on appelle le mouvement ou le changement.
C'est à tous les hommes qu'il est dévolu de se connaître soi-même et de bien penser.
Dieu que mon clocher est la clairière, quelle est cette voix familière qui chante à m'y approcher? C'est ma rivière, approchez, écoutez. Au fil de l'eau, les heures qui passent parlent du passé qui s'efface, du temps qui va nous quitter. C'est ma rivière, approchez, écoutez. D'où murmure des oiseaux, d'où frissons de roseaux. Dans le vent qui dit toujours des mots d'amis, des mots de si jolis mots d'amour. Mieux que mon clocher près de la clairière, quelle est cette voix familière qui chante à m'y approcher? C'est ma rivière, approchée, écoutée.
J'y pense, Heinz Wittmann, j'insistais sur la multiplicité des interprétations, des lectures possibles de ces fragments poétiques, littéraires, philosophiques, philologiques. On pourrait les mettre en chanson. Je suis sûre que, au style de Charles Trenet, ça marcherait très
ça
bien,
marche
non?
Ça marche très bien.
Hein? Bon, bah vous avez essayé, non?
Pas moi.
Bon, ah bah vous me direz.
Mais j'écoute.
D'accord, très bien. Merci en tout cas, Heinz Wittmann, d'être venu nous parler d'Héraclite aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir, comme à chaque fois. Héraclite ou la séparation, c'est le titre du livre que vous avez écrit avec Jean Bollac aux éditions de Minuit. Puis, va paraître De vous en janvier, cette fois-ci écrit avec Étienne Klein, l'ultimatum de Démocrite au boson de Higgs. Et au-delà, ce sera aux éditions Albin Michel. Bonjour Heinz Wittmann.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Quand Clément Rosset décrit l'impossibilité de trouver les mots pour nommer ce camembert qu'il est en train de goûter, est-il dans le constat que fait Héraclite de l'impossibilité de saisir le monde et le réel par le langage?
Il y a une nuance près. C'est que quand j'utilise un mot pour désigner de la réalité, ce qui fait que je n'y parviens jamais, je suis d'accord avec Rosset, c'est évident, je n'y parviens jamais. Selon Héraclite, c'est parce que il y a un autre versant du mot qui est du côté de sa sonorité, du côté de ce que je dois écouter et que je n'écoute jamais parce que je suis obnubilé par ce que le mot prétend dire.
Sauf quand on chante, justement, d'où le chant de François Morel sur les fromages. Là, on entend les mots.
Là, on entend les mots. Et c'est d'ailleurs l'art, c'est un terme héraclitéen, qui consiste à attirer notre attention sur tout ce que n'entend pas celui qui parle et celui à qui on parle. Alors, l'exemple, je prends un exemple, il est tellement parlant. Il y a un fragment qui dit que le nom de l'arc vit, son œuvre mort. Eh bien, un mot archaïque grec, si on ne sait pas ça, désigne l'arc par bios, avec l'accent sur la dernière syllabe. Mm-hmm. Alors que le mot vie, c'est l'accent sur la première syllabe. Mais l'écoute fine qui accompagne la désignation de l'arc nous fait découvrir qu'en voulant dire œuvre de mort ou instrument de mort, nous disons le contraire de ce que nous croyons dire. Et donc, c'est là qu'il y a irrémédiablement un élément tragique, parce que nous restons séparés de notre intention, qui se retourne contre elle-même, dans le dire qui s'oppose au dit.
Mais est-ce que ça veut dire que Héraclite serait plus philologue que philosophe ?
Il est philologue par excellence, si on donne au mot philologue le sens étymologique, c'est-à-dire celui qui se soucie de la parole. Il se soucie de la parole de manière obsessionnelle, puisque la totalité des fragments, on n'a pas le temps de les passer en revue, mais vous montrer que la totalité des fragments mettent en scène le problème de la compréhension de ce qu'on veut dire, parce que ce qu'on dit en réalité s'écarte, se sépare, et finalement reste incompatible avec ce qu'on dit. La contradiction, si on met un petit tiret entre contradiction, c'est la structure de toute diction. Aucune diction ne peut atteindre au point de s'y abolir d'une certaine manière la chose dont elle parle. La diction est toujours contradiction, comme dans ce fragment où le mot bios qui désigne l'arc, mm-hmm. pour celui qui a l'oreille fine, eh bien, veut dire vie. D'où paradoxe, est-ce que en parlant de l'arc et donc de la mort que l'arc provoque, est-ce que je ne parle pas à mon insu de la vie ?
Mais alors faut-il continuer à parler ?
L'écoute, qui c'est vraiment c'est le mot clé chez Héraclite, savoir écouter. Ils ne savent pas écouter. Et bien, il y a des mots comme par exemple axunetoi, c'est les hommes qui ne comprennent rien à rien. Mais quand on regarde l'étymologie des mots, ça veut dire ils sont incapables de mettre ensemble. Sunhiemi, ça veut dire mettre ensemble. Ils ne savent pas mettre ensemble ce qui s'écarte. Et dans toute parole, il y a quelque chose qui s'écarte du fait de l'impossibilité de réduire ce que j'ai dit au dit, puisqu'il y a toujours le dire qui a sa sonorité propre et dont les artistes vont s'emparer, les poètes, etc., et qui échappe à notre écoute si cette sonorité particulière, cette signification cachée, n'est pas expressément par un art subtil mis en scène. Mmh. Et donc, le sophone d'Héraclite, on a traduit par art, c'est une habileté d'artisan. Et moi, je suis toujours tenté par traduire le truc. Tous ceux dont j'ai entendu les discours, ils parlent de tout, eh bien, aucun n'est parvenu jusqu'à identifier le truc qui est séparé de tout.
Alors, on va essayer de comprendre ça ce matin, parce que vous avez votre Héraclite, Heinz Wissmann, chacun de mes invités, sans doute cette semaine. Le vôtre, on peut le découvrir en lisant le livre que vous avez coécrit avec Jean Bollack, qui s'appelle Héraclite ou la séparation. C'est donc la thèse que vous défendez, hein, le langage tel qu'exposé par Héraclite est le lieu d'une séparation entre nous et le monde. C'est aux éditions de Minuit. Pour bien ressaisir la spécificité de cette lecture, est-ce que vous pouvez nous retracer rapidement les grandes traditions interprétatives d'Héraclite, parce que c'est ce qu'on disait hier et avant-hier. Finalement, d'Héraclite, on ne sait pas grand-chose. Les fragments sont difficiles d'accès. Donc, on dépend de ce que ces lecteurs contemporains et ensuite dans la postérité ont bien voulu en dire. Alors, quelles sont ces traditions et comment vous vous distinguez de ces traditions, Andy Wissmann ?
Enfin, les citations qui nous sont parvenues sont évidemment, dès le départ, accompagnées d'une interprétation qui est motivée par quelque chose qui est irrépressible, c'est qu'on s'intéresse à ce que parler veut dire. Il y a une sorte de désir d'aller vers le dit, puisqu'on veut le fixer. Et donc, dans ces tentatives, si on laisse de côté les gens qui, par le dépit de ne rien comprendre à la prose de ce philosophe, ont décrété qu'il était caractériel, grincheux, méprisant, voire misanthrope, et donc exprès obscur, fignolant des espèces de paradoxes destinés essentiellement à en imposer à un public médusé. Mm-hmm. Cette interprétation, on peut la laisser de côté. On la trouve dans toute la tradition.
C'est la plus courante.
C'est la plus courante.
C'est-à-dire qu'Héraclite était un misanthrope, bourru, qui n'aimait pas les hommes.
C'est totalement. Il n'aimait peut-être pas les hommes dans la mesure où il les trouvait idiots.
Oui.
Mais il ne proposait pas une prose inintelligible pour les rabaisser ou pour les mépriser. C'est pas là l'explication. Donc il y a deux grandes traditions vraiment fortes qui s'appuient sur chacune sur l'association entre le logos et une métaphore prégnante dans les fragments d'Héraclite. La première tradition associe le fleuve au logos. Et dans ce cas, le logos dirait l'impermanence des choses.
Donc le logos, vous le traduisez comment? La raison, le
langage? Non, mais on n'en est pas là.
Ah bah oui, mais pour comprendre ce que vous dites.
Dans le logos, c'est-à-dire le discours, disons d'abord provisoirement le discours, ou toute parole, enfin peu importe. Eh bien, pour la première tradition interprétative, c'est le fleuve qui fournit la clé, parce que le logos dit simplement le changement perpétuel, ce qu'exprime la formule « tout s'écoule », pantarei, qui n'est pas d'Héraclite, mais qui est le condensé de cette interprétation. Il faut vraiment s'être rendu compte qu'on prête à Héraclite donc une thèse, qui est la thèse de l'impermanence des choses. Et c'est cette thèse qui a permis aux héraclitéens, que sont les sophistes, de s'emparer de la pensée d'Héraclite, du truc, le sophon. Il s'appelle sophiste à cause du sophon d'Héraclite.
C'est pas Sophia la sagesse.
Mais c'est le même mot. Mais au départ, ton sophon, c'est l'art que déploie l'artisan, son tour de main, son petit truc, ce qui fait. Alors un sophiste, c'est quelqu'un qui possède la technique d'utiliser le langage pour créer des stabilités provisoires, qu'on appelle le sens commun ou l'opinion. Et donc, quand on lit les sophistes, on s'aperçoit qu'ils s'emparent de la thèse d'Héraclite interprétée par la métaphore du fleuve, pour dire notre rôle, c'est de lutter en permanence contre cette impermanence.
Donc Héraclite ne dit pas dans ses fragments que les choses sont impermanentes. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, c'est pas quelque chose
qu'on
prouve.
Ça n'a pas du tout ce sens, parce que, enfin, je peux le dire en passant, un fleuve, c'est pas seulement l'eau qui s'écoule. Un fleuve, c'est la pression des rives qui sont absolument permanentes dans leur opposition. Et si les rives s'écartent, l'eau ne s'écoule plus, finit par stagner. Donc, dans la métaphore du fleuve, et là on s'écarte déjà de la tradition dont je parle,
non, mais on va y revenir,
dans la métaphore du fleuve, il y a les deux. Il y a le logos qui veut dire rapport. Le mot logos signifie au départ un rapport qu'on peut établir entre un sujet et un prédicat, entre une cause et un effet. Analogie montre bien que logos a quelque chose à voir avec le rapport. Et donc, dans le cas du fleuve, c'est le rapport entre les rives qui est stable, mais qui fait que si je suis sur une rive, je ne suis pas sur l'autre. La séparation est absolument inévitable. Or, c'est la pression de cette séparation qui fait que l'eau s'écoule. Si les rives s'écartent, l'eau ne s'écoule plus. Donc l'image du fleuve utilisée par les sophistes est réductrice par rapport à ce que Héraclite veut réellement dire. Mais ça, on y arrivera. La chose que je trouve passionnante, c'est que les sophistes ont une justification de leur pratique sociale, parce qu'elle est politique, essentiellement. C'est stabiliser les communautés humaines qui sont exposées à l'impermanence des choses. Et donc, eux, par le discours, c'est ce que dit Gorgias, de ce que dit Protagoras, fournissent de la stabilité provisoire, qui peut devenir manipulation. Et donc, dans le jeu politique, il y a certains rhéteurs, Périclès en était un, qui savent s'emparer de cet art de stabiliser les choses aux yeux de la foule. Par ses discours que Thucydide rapporte, il a créé Athènes. Il y avait de quoi. Mais il fallait encore le discours pour que les Athéniens s'identifient avec leur ville. Et bien, c'est ça que font les sophistes. Ça, c'est une grande tradition. Et Platon, on ne peut rien comprendre à Platon si on ne sait pas, ça a été évoqué dans la première édition.
Avec Jean-François Prado lundi, oui.
Que Platon était tout jeune, disciple d'un héraclitéen, Cratyle, qui professait donc, comme les sophistes, cette idée que le travail de l'homme de pensée, le praticien du discours, consiste à stabiliser les opinions. Et donc la maturité de Platon est caractérisée par la lutte contre cette fonction de la pensée, de stabiliser dans l'opinion le flux. Mm-hmm. Parce qu'il cherche, lui, à opposer aux sophistes, qu'il combat avec une dernière énergie, un monde stable qui existerait indépendamment du discours, le monde des idées. Et c'est pour ça que le dialogue, le Cratyle, se termine par l'injonction socratique « Cesse de parler, regarde. » Parce que tant que je parle, je m'expose à cette dissociation entre le dit et le dire, et le remède que dans la première tradition on a trouvé, est le remède sophistique de stabiliser les choses en créant un accord d'opinion qui n'est fondé sur rien d'autre que sur la fonction du discours qui entretient une illusion, que Gorgias décrit magnifiquement dans l'éloge d'Hélène. Il dit on peut faire admettre tout et son contraire, pourvu que le discours soit bien fait.
Pourtant, Platon ne renonce pas au langage. D'ailleurs, ce sont des dialogues platoniciens que nous avons.
Il s'expose. Il faut savoir que l'enseignement de Platon est perdu. C'est-à-dire l'enseignement dans l'académie ésotérique, qui portait, comme la tradition nous l'a appris, sur l'un. Mais sur l'un comme immobilité, comme quelque chose qui ne s'altère pas. Et les dialogues expose le cheminement qui conduit la pensée au postulat de l'idée immobile, l'idée du bien, en affrontant les séductions du langage. Et donc tous les dialogues platoniciens sont des tentatives de désamorcer l'égarement que le langage introduit dans notre rapport au réel. C'est comme ça qu'il faut les lire. Le seul à avoir saisi ça avec une précision extraordinaire, c'est le premier traducteur allemand, le grand fondateur de l'herméneutique moderne, Schleiermacher, qui a traduit tous les dialogues, et qui a écrit l'introduction que personne ne lit plus, où il dit, mais c'est une propédeutique, les dialogues, pour que le public s'aperçoive que les mots nous égarent, parce qu'on leur attribue un sens qui est très souvent contredit par ce que le mot dit par ailleurs. Et donc, du coup, Platon s'expose dans les dialogues, en parallèle à son enseignement, à cette impermanence que postule la thèse héraclitéenne.
Oui, c'est ça. En voulant contredire Héraclite, finalement, il lui est fidèle, puisqu'il s'apprête à renoncer au langage. Oui, c'est
exactement.
Ça.
Comme ça, on peut comprendre Platon. Et voilà. Maintenant, la deuxième tradition.
Oui, donc, d'un côté, les sophistes et Platon qui s'oppose aux sophistes, mais qui, ce faisant, est héraclitéen, peut-être malgré lui.
L'autre... Il est héraclitéen pour s'en distancier.
C'est ça.
Mais il a besoin de cet opposant pour que sa démarche devienne intelligible.
C'est ça.
Voilà. Et donc, pourquoi les dialogues de Platon, j'ajoute encore une phrase, pourquoi les dialogues de Platon portent très souvent des noms d'interlocuteurs de Socrate, mais avec des sous-titres? Parce que chaque dialogue traite d'un concept. Ça peut être l'amitié, ça peut être la prudence. Et Socrate, il accueille toujours les jeunes nobles qui sortent du gymnase, encore chauds par l'exercice, etc. Et il leur pose la question, mais comment tu définirais la prudence? Et l'imprudent qui répond va fournir à Socrate la possibilité d'un élan héraclitéen ironique. Parce que si l'interlocuteur dit, oui, pour moi, mes parents m'ont toujours dit qu'être prudent, c'est de marcher lentement, d'avoir une allure comme ça, pas pressée. Et Socrate lui dit, mais alors si un de tes meilleurs amis se fait agresser au bout de la rue, est-ce que ce serait pas prudent d'accélérer les pas? Et comme ça, il désamorce peu à peu, grâce aux multiples significations que peut revêtir un concept, cette espèce de héraclitisme, parce qu'il veut amener ses interlocuteurs à la nécessité d'admettre que derrière ce voile du langage héraclitéen se cache une réalité immuable. Mmh. Mais maintenant, vite, la deuxième tradition.
Oui, allez-y.
La deuxième tradition qui est donc associée aux stoïciens en général, utilise comme métaphore non pas le fleuve, mais le feu. Et dans la reconstruction stoïcienne de la physique ancienne, il n'y a pas de différence entre le feu d'Héraclite, l'air d'Anaximène et l'eau de Thalès. C'est-à-dire, c'est un élément originaire qui, en s'aliénant dans le monde, en devenant autre chose que lui-même, c'est-à-dire air ou eau ou terre, eh bien, éprouve le besoin de revenir à lui-même, et donc il y a un cycle cosmique d'aliénation du feu et du recouvrement de son identité. Ça, c'est l'ekpyrose, c'est-à-dire c'est ce retour du feu à lui-même. Mm. Alors, la particularité du feu interdit de l'associer dans le cycle cosmique à l'eau et à l'air. Pourquoi ? Parce que le feu n'existe que grâce au combustible dont il se sépare. Si jamais le feu est uniquement auprès de lui-même, il s'éteint.
Donc c'est un élément de la séparation, le feu.
C'est un élément de la séparation.
Alors pour voir ce point précisément, je vous propose qu'on écoute un texte de Diogène Laërce qui s'inscrit dans cette deuxième tradition, si je vous suis bien, qui propose un contresens donc autour de cette question. Exactement. Du feu. Voici le texte.
Monsieur le Président en ligne.
Monsieur le Président, il faut éteindre l'incendie avant qu'il ne devienne un feu de forêt.
C'est l'Héraclite, Alexandre ? Je me suis laissé dire que vous étiez un spécialiste.
Oui, en effet, ça me détend. Entre deux chasses à l'ours.
Voici quelles sont les doctrines particulières d'Héraclite. Le feu est l'élément. Et toutes choses sont échanges de feu, venant à l'être par raréfaction et condensation. Mais il n'expose rien clairement. Toutes choses viennent à l'être selon l'opposition, et l'univers entier s'écoule à la façon d'un fleuve. Le tout est limité et constitue un monde unique. Il naît du feu et il s'embrase à nouveau selon certaines périodes, alternativement pendant la totalité du temps. Et cela se produit selon le destin. Celui des opposés qui conduit à la venue à l'être est appelé guerre et discorde, et celui qui conduit à l'embrasement est appelé accord et paix. Le changement est appelé la route qui monte et qui descend. Et le monde est en devenir selon elle. En effet, en se condensant, le feu s'humidifie complètement, et ainsi constitué, il devient de l'eau. Quant à l'eau, en se congelant, elle se tourne en terre, et c'est là la route qui descend. En sens inverse, la terre se liquéfie et donne ainsi naissance à l'eau, d'où provient tout le reste, puisqu'il réduit presque toute chose à l'exhalaison qui s'élève de la mer. Et c'est là la route qui monte. Des exhalaisons s'élèvent de la terre comme de la mer. Les unes sont brillantes et pures, les autres ténébreuses. Le feu s'accroît de celles qui sont brillantes, l'humide des autres.
France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett.
Et nous parlons des fragments d'Héraclite cette semaine avec ce matin le philologue et philosophe Heinz Wissmann qui nous propose sa lecture d'Héraclite. Donc vous venez bien de distinguer les deux grandes traditions interprétatives d'Héraclite. D'un côté, les sophistes qui accordent de l'importance à l'image du fleuve, les sophistes contredits par Platon qui lui-même donc voulait contredire Héraclite. De l'autre, la tradition stoïcienne avec ce texte de Diogène Laërce, on en avait déjà entendu des extraits lundi dernier puisqu'il a l'avantage de présenter ce personnage qu'est Héraclite. Et donc ce que vous dites à Heinz Wissmann, c'est qu'au fond, la vision qu'en propose Diogène Laërce est sinon incomplète, du moins erronée, et que l'exemple du feu en est la meilleure preuve.
C'est une interprétation biaisée par une précompréhension qui est stoïcienne, qui consiste à supposer que le modèle initial de la cosmologie est nécessairement aussi le modèle auquel adhère Héraclite. Mm-hmm. C'est un élément primordial, pur, identique à lui-même, appelé arché, commencement. Et cet élément va ensuite se diversifier, donc s'aliéner, se perdre dans l'altérité, pour se ressaisir à la fin d'un cycle. C'est cette image que les stoïciens défendent, quelle que soit leur orientation particulière. Mmh. Et la difficulté qui saute aux yeux, c'est que le feu, justement, ne fonctionne pas comme l'eau et l'air qui, à la fin du cycle, peut retrouver son identité pure. Or, le feu, lorsqu'on le sépare du combustible, quand on le ramène à lui-même, s'éteint. Pour que le feu flambe, et maintenant je donne un exemple magnifique emprunté à la tradition stoïcienne, cité par Hippolyte, l'évêque de Rome, ça c'est 4e siècle, je crois, de notre ère, évidemment. Ce sont deux mots, faim et satiété. Dans la perspective stoïcienne, le feu, lorsqu'il est aliéné dans le monde, souffre. Il a faim. Et quand il revient à lui-même, il est rassasié. Alors les deux mots, kres, mosune, pour faim, et koros, pour satiété. J'ai pour tous ceux qui savent le grec, ça saute aux yeux. Le mot pour satiété est un mot négatif. Ça veut dire être plein jusqu'à au dégoût. Et dans les fragments d'Héraclite, on trouve le verbe kekorentai qui est appliqué à la foule qui gît, repue, comme du bétail. Alors que les meilleurs flambent en choisissant l'un. C'est-à-dire ils sortent de cette communauté qui gît comme du bétail, kekorentai, là le mot koros se trouve à l'intérieur. Et donc il faut inverser l'interprétation stoïcienne de laquelle s'inspire Hippolyte, et dire que le feu n'est réellement vivant que quand il a faim, puisqu'il dévore le comestible, et il s'éteint quand il est en réplétion, pourrait-on dire, quand il est tellement plein qu'il a le dégoût qui fait qu'il ne veut plus rien manger.
Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer le feu comme étant le principe premier du cosmos, mais au contraire comme étant le lieu de la tension originelle, au fond, qui est à l'origine du cosmos.
Le feu est, dans la mesure, et ça c'est vraiment une nouvelle étape qu'il faut franchir. Dans le fragment 1, Héraclite dit de quoi il parle, de quoi son logos parle. Il dit, je parle des dits et des faits. Alors, faits au sens de ce qu'on accomplit. Epea kai erga est une formule homérique qui désigne donc ce que les hommes disent et ce que les hommes font. Donc, Héraclite ne parle absolument pas de la cosmologie en cosmologue. Il parle de la manière dont les autres disent le cosmos. Tous les fragments...
Ça, c'est très différent.
Mais c'est totalement différent. Ouais. Et chaque fragment, si on avait le temps, on pourrait regarder dans le détail. Chaque fragment met en scène la contradiction qui se niche dans le discours spéculatif de la cosmologie.
Donc Héraclite ne parle pas du cosmos, mais du discours, tout le temps.
Du discours sur le cosmos, parce que tout ce qui l'intéresse, c'est la manière de dire. Et donc, dans le fragment 1, qui est en fait l'exorde de son œuvre, il dit, les gens n'entendent pas ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Pourquoi ils disent ce qu'ils font? Parce qu'ils s'intéressent au rituel et à la charge symbolique d'un rituel. On a un fragment, par exemple, qui dit « ceux qui se purifient par le sang », un rituel pour se purifier d'un meurtre, par exemple, eh bien, ressemble à des gens qui entrent dans la boue et se lavent avec la boue. Parce qu'il attire l'attention que l'acte symbolique néglige, que le sang qui sert à purifier le sang du meurtrier, eh bien c'est le même sang, simplement on n'y prête aucune attention parce que ce qu'on vise dans l'acte symbolique, c'est la fonction purificatrice de ce sang. Et lui attire l'attention sur une signification qui échappe à l'attention. D'où son invitation à écouter, à ne pas négliger ce que, lorsqu'on fait quelque chose, de certaine manière, on ignore parce que la charge de sens qu'on admet nous obnubile parce qu'il y a un sens contraire. Et quand il dit ceux qui se purifient par le sang ressemblent à des gens qui descendent dans la boue et se lavent ensuite avec la boue, c'est ce type de polémique qui se trouve partout dans les fragments d'Héraclite. Et donc, dès le début, ce qu'il dit, c'est que mon discours a pour objet de séparer, dit Haireo, de séparer selon leur nature ce que les hommes disent et ce que les hommes font. Voilà le sujet.
C'est le lieu du tragique. On disait hier avec Philippe Choulet que pour Nietzsche, Héraclite n'était pas assez tragique, justement parce qu'il restait, il gardait une forme d'harmonie dans le cosmos. Donc vous, vous dites, nous, au fond, ce tragique-là, il est présent chez Héraclite.
Ce que Héraclite appelle l'harmonie invisible, qu'il oppose à l'harmonie visible, c'est quoi ? L'harmonie visible, c'est par exemple le lien qui, à la surface du globe, peut s'établir entre des rives de la mer, entre des endroits qu'on peut relier entre eux par des voyages, par un bateau, par exemple. Ça, c'est l'harmonie visible et une harmonie de surface. Or, l'harmonie invisible est beaucoup plus forte. Et c'est quoi l'harmonie invisible ? C'est la profondeur insondable dont il dit que c'est la profondeur de l'âme. L'âme a un logos si profond qu'on ne pourra jamais le mesurer. Et ça, c'est l'écart maximum que dit le logos, parce que le logos est rapport. Il dit un rapport entre ceci et son contraire. D'où le chemin vers le haut, qui est en même temps chemin vers le bas, parce que dès que je monte, je trace le chemin possible vers le bas.
Comme la flamme.
Comme la flamme, exactement. Et donc, ce qui est si intéressant, c'est que cette harmonie, il ne faut pas du tout l'interpréter comme étant harmonieuse. Qu'est-ce que veut dire harmonie en grec ? Ça vient d'un radical, je m'excuse pour ça, d'un radical indo-européen qu'on a dans art, dans article, dans articulation, c'est art. Et art veut dire agencement. Donc l'harmonie, la première harmonie, c'est le truc, le tour de main du charpentier qui sait agencer du bois. Notamment quand il réunit des planches pour rendre étanches les coques d'un bateau. C'est ça l'harmonie. Ensuite, on peut faire de l'harmonie avec des sons, avec la musique et tout ce qu'on veut, mais c'est toujours le même geste, en agence. Et donc, il existe un agencement en surface qui donne l'illusion que tout est stabilisé. Alors que la vérité de l'harmonie affanesse, invisible, est qu'en profondeur, il y a un rapport qui ne se laisse pas mesurer, qui est tellement profond, et c'est la foudre qui s'abat sur le navire, qui prend le gouvernail, dit Héraclite.
Est-ce que c'est le chaos pour autant ?
Non, c'est pas le chaos, c'est chaque fois, comme les rives du fleuve, une opposition.
C'est voilà, c'est l'opposition qui est première.
Ce qu'il y a de ultime dans la pensée d'Héraclite, c'est le logos en tant que rapport d'opposition inépuisable d'une certaine manière, parce que dès qu'on crée un rapport stabilisé, eh bien la contradiction va nous conduire hors de ce rapport, puisqu'il y a toujours un ailleurs, un au-delà, un plus haut, un plus bas. Simplement, le principe de cette... C'est comme une accolade qui tient le réel, mais pas à la manière de la réunion du réel dans l'un des stoïciens, dans l'un de Thalès. Non. Cette accolade tient le réel dans sa séparation. Et c'est là, je trouve, qu'il y a une puissance, pour nous les modernes, de la pensée d'Héraclite, qui m'a, dès le départ, mais absolument fasciné. Et une fois que j'avais compris, avec Bolla, qui était un grand helléniste et qui savait triturer les textes, parce que, voilà, Aristote dit dans la rhétorique que Héraclite est difficile à ponctuer. « Dia styxai ». Le styx, c'est un point dont se servent les grammairiens d'Alexandrie pour éditer les textes d'Homère et des tragiques. Parce qu'on ne peut pas lire les textes si on ne sépare pas les membres du texte, les mots qui se rapportent les uns aux autres. Et Aristote cite la première phrase du premier fragment d'Héraclite pour illustrer cela. Il dit « Héraclite, c'est très difficile à ponctuer parce que selon qu'on met le pont un point là ou là, le sens change. » Et effectivement, le premier fragment d'Héraclite commence par... Alors, il y a trois traductions possibles selon qu'on met le point. Alors, oui. La traduction courante, c'est « de ce discours qui est toujours... de ce discours, point, qui est toujours, point, les hommes n'ont aucune intelligence. » Deuxième traduction, de ce discours qui est, qui est l'ontologie, la raison universelle, les hommes restent à tout jamais, le toujours, et maintenant rapportés à la suite, séparés par l'inintelligence. Et troisième traduction possible, du logos qui est celui-ci, c'est-à-dire celui que je profère, eh bien, ce logos-là, les gens ne l'entendent jamais.
Non, mais alors, comment trancher? Comment savoir qui a raison? Il y a trois possibilités de ponctuation qui induisent trois sens différents de ce même fragment.
Et c'est la suite. C'est le travail de l'interprète, c'est de contextualiser les hypothèses de compréhension d'une phrase. Or, la phrase suivante explique tout de suite par un paradoxe de quoi il s'agit. Parce que Héraclite dit, alors, les gens se sont cassés la tête pour savoir ce que ça signifie. Il disait que les êtres humains resteront incapables de mettre ensemble à xunetoi, c'est-à-dire de comprendre. D'ailleurs, le mot comprendre est très proche, métaphoriquement, du mot grec. Eh bien, il reste incapable de mettre ensemble ce qui est ainsi séparé par le logos, hein, ce que l'écoute que nous pratiquons nous fait perdre. Eh bien, et ceci, avant d'avoir entendu ce discours, et après l'avoir entendu une première fois. Pourquoi une première fois? Parce que il y a une seconde écoute qui se détache de ce que le discours semble dire ou veut dire pour prêter l'oreille à ce qu'il dit en même temps sans qu'il le dise explicitement.
Alors, comment prêter l'oreille à ce qui est dit sans que ce soit dit explicitement? Voici un exemple.
Je te demande juste pourquoi tu veux pas parler à ta femme.
Mais tu ne comprends rien, c'est pas juste que je veux pas parler à Ariane, c'est Charlotte.
Qui est Ariane?
C'est une de mes patientes, elle est chirurgienne.
T'en sers à moi. C'est elle que tu as mentionnée en passant au début de notre entretien.
Et?
Cher Philippe, tu n'es pas n'importe qui. Tu es redoutablement intelligent et redoutablement affûté. Et comme tous les psys, tu te sers de tes connaissances pour échapper à la vérité. Donc chez toi, il y a ce que tu es venu dire. Ce que tu es venu ne pas dire, et puis ce que tu es venu ne surtout pas dire.
Eh oui, c'est la série En Thérapie, hein, diffusée sur,
c'est formidable.
Sur Arte, qui vient nous aider à essayer de comprendre ce que vous dites d'Héraclite à Wissmann. Est-ce que c'est ça le propos? C'est d'essayer d'entendre ce qui n'est pas dit, mais qui est quand même dit par le fait de ne pas être dit.
Absolument. D'où le fragment d'Héraclite que bon, je cite toujours, parce que ça c'est vraiment une règle de vie. L'inattendu. Si tu ne l'attends pas, tu ne le rencontreras pas. Et donc, quelle est la disposition de l'écoute qui s'écarte du sens obvi? C'est une sorte de disposition qui consiste à s'attendre à une chose inattendue. Alors, la chose inattendue, c'est ce qu'on n'entend pas quand on suit simplement l'intention du locuteur.
Ça peut être le lapsus, donc?
Non. C'est pas le lapsus peut être une modalité, évidemment, de mise en évidence de cette chose séparée, cette chose irrécupérable par le discours conscient. Mais il est absolument clair que ce qui, à l'arrière-plan de la pensée d'Héraclite, doit être dégagé, c'est une attention d'un type tout à fait particulier qui se porte sur ce que, lorsque la parole ou l'acte rituel, par exemple, prétend signifier, est contredit par le mot ou la phrase qu'il évoque. Mmh. Et l'écoute analytique est exactement cette écoute-là. C'est évident.
Donc Héraclite serait une sorte de précurseur de l'écoute analytique?
Oui. Or, cette écoute analytique chez Héraclite est évidemment utilisée non pas pour le divan et pour délivrer les gens de leur pathologie psychique, non. C'est utilisé pour délivrer les hommes de leur pathologie spéculative.
C'est-à-dire?
Les hommes s'imaginent que par la spéculation, on peut arriver à la désignation ultime, non contradictoire, du réel.
Ouais.
Héraclite dit, peine perdue parce que le langage ne le permet pas.
On ne nommera jamais vraiment le réel, c'est
non,
ça?
Non, on ne pourra jamais y parvenir parce que le langage dit toujours le contraire de ce qu'il dit. Et donc, dans l'écoute analytique, il y a justement cet effort pour entendre ce que le mot qui, pour l'analysant, dit telle chose, dit par ailleurs, à son insu. Et c'est absolument ça. On pourrait passer en revue, mais dans les fragments d'Héraclite qui, tantôt, c'est pour ça qu'il est si dur avec les prédécesseurs. Il dit, ben, ils ont compris rien à rien. Hésiode, il fallait le... Enfin, même Homère, qui est donc la culture grecque
la plus normale, eh ben, il dit il faudrait les chasser, il faudrait les battre. Enfin, il leur promet le pire des châtiments, parce qu'ils entretiennent cette espèce d'illusion qu'on puisse parvenir à dire la chose en soi.
Mais alors, pour bien comprendre ça, est-ce que, puisqu'on a commencé l'émission avec la voix de Clément Rosset, qui disait la tragédie qui consistait à ne pas pouvoir nommer le goût du camembert, est-ce qu'on peut dire que chez Héraclite, la tragédie inhérente au langage, qui en fait le lieu d'une séparation, revient aussi au fait que ce que nous cherchons à nommer est toujours singulier, est toujours unique, et alors que le langage, lui, est générique, et donc le langage n'est pas apte à saisir la singularité du réel. Est-ce qu'Héraclite le dirait comme ça ?
Il le dirait un peu différemment, mais il dirait cela. Il dirait que dès qu'on parle, on met en scène cette séparation entre ce qu'on vise comme chose dite et l'effectuation du dire. Cette séparation nous sert d'indicateur quand on réfléchit à la pertinence de ce qu'on a dit. Et on découvre chaque fois que ce qu'on a dit n'épuise pas le sens de ce qui est désigné. C'est ça la séparation. C'est pas parce que, uniquement parce que ce qu'on désigne échappe par sa singularité à toute désignation. C'est aussi parce que l'outil de désignation échappe à lui-même, d'une certaine manière, puisque le langage n'est pas capable, on dirait aujourd'hui, de s'abîmer dans le signifié.
Oui, alors mais ça c'est du point de vue langagier, mais du point de vue, disons, ontologique, le fameux principe 1 dont on parle en fait chez Héraclite, le 1, l'unicité, c'est la singularité.
C'est la singularité, voilà. Mais c'est la singularité de celui qui pratique l'écoute héraclitéenne. C'est pas la singularité d'une chose.
Pour vous, c'est indissociable du langage, oui,
c'est ça. Non, c'est pas du côté de l'ontologie. Héraclite ne fait pas du tout d'ontologie, voilà. Il fait la logologie. Moi j'avais inventé ce mot, que Barbara Cassin a ensuite repris dans ses œuvres, la logologie, l'a écrit sur les sophistes, etc. C'est inspiré d'un travail qu'on avait fait sur Gorgias, le premier sophiste, puisqu'elle a fait sa thèse sur le traité du non-être de Gorgias, qui s'inscrit en faux contre l'illusion parménidéenne de pouvoir nommer l'être. On est au cœur, c'est héraclitéen, Gorgias. Le sophiste se revendique maître du truc. Et j'adore cette traduction qui est un peu cavalière, mais elle suggère ce que les gens devaient entendre quand ils désespéraient d'y voir de la sagesse.
Oui, mais alors justement, si on prend ce constat-là au sérieux, c'est aussi une question que je vous posais dès le départ. Pourquoi continuer à parler si de toute façon nous sommes séparés du réel? Si de toute façon la texture, la nature, l'existence même du réel nous est inaccessible et donc secondaire, pourquoi même parler?
Mais il y a une réalité qui n'est pas la réalité repos, qui serait l'identité de l'en-soi que l'ontologie cherche à capter par les moyens du langage. Non, il y a une attention tout particulière qui porte sur l'inattendu qui advient, et cette attention est nourrie par la conscience que le langage est toujours en train de se contredire, il est toujours en train de mettre en scène une opposition. Et dans la mesure où on est attentif à cette opposition, on est plus dans le réel que lorsqu'on est du côté de l'assignation univoque du réel. C'est l'analyse qui nous apprend ça aussi. C'est qu'il n'y a pas de réalité plus grande que cette réalité de l'inconscient qui nous fuit. C'est là qu'on touche la réalité. Et donc, je trouve Héraclite, de ce fait, est philosophiquement plus intéressant que ceux qui font l'ontologie de l'identique.
Oui, mais originaire. Vous faites une ontologie du langage, Hans Wiesmann, en fait. Vous déplacez le lieu de l'ontologie.
Si on veut appeler ça ontologie, mais « on » désigne justement, contre Héraclite, le sujet du verbe « être » et la thèse de Parménide qui commence par « qu'est-ce que je veux dire quand je dis « et » ?»
Alors, il y a deux... E-T ou E-S-T ?
E-S-T, esti. Ça commence sans sujet. Le début de Parménide, c'est parce que Parménide veut maintenant désamorcer la contestation de l'ontologie par Héraclite. Et donc il dit, je vais faire comme lui, je vais commencer par un mot et je vais faire le tour de ce mot pour savoir s'il se contredit. Et il se dit, il y a un seul sujet possible
qui, dans le cas de l'affirmation « est », ne peut pas être contredit. C'est le participe du verbe « être », qui est naturellement, c'est un tour héraclitéen, contre Héraclite. Si on se demande ce qui est, eh bien ce qui est incontestablement, c'est le participe du verbe être. Du coup, il a le on de l'ontologie. Et en réfléchissant sur ce on, eh bien, il développe une représentation de ce sujet du verbe être. Et on est en plein dans les grands systèmes philosophiques.
Ouais.
Parce que c'est comme l'absolu chez Hegel. Et là, Héraclite et ceux qui le suivent, d'abord les sophistes, mais les sophistes, ça reste encore faible parce qu'ils pensent que le discours, le truc dont parle Héraclite, ça peut s'arranger si on fait une politique du langage, si on crée de l'opinion, ce que les Américains en sciences politiques appellent « opinion making ». J'invite ceux qui s'intéressent à ça, de regarder un peu les programmes de sciences politiques enseignés aux États-Unis. Opinion making, c'est l'art de séparer les adhésions au sens des uns et des autres pour créer des camps dans lesquels se cristallise quelque chose qu'on peut appeler un sens commun à plusieurs. Et ça devient des partis politiques. Et à partir de là, on peut faire de la politique. Parce que la démocratie, comme atomisation radicale des points de vue, genre gilet jaune, ne permet pas de faire la politique. La politique, c'est l'art de produire des oppositions. Et donc, c'est étonnant, parce que c'est vraiment les sophistes qui sont habiles pour dire telle opinion vaut mieux que telle autre, etc. Et puis, ils agrègent les gens autour.
C'est ce qu'on appelle la démagogie aujourd'hui.
Et ça devient la manipulation, la démagogie. Mais c'est enseigné. Et c'est enseigné comme étant indispensable pour que la démocratie puisse fonctionner.
Comme ça l'était à l'époque des sophistes.
Exactement, c'est ce que je veux dire. Alors, Héraclite nous fournit une clé de notre rapport au réel qui n'est pas ontologique au sens traditionnel de l'identification de la réalité ultime identique à elle-même. Non, il attire notre attention sur un processus qui n'est pas tout fout le camp. C'est pas le fleuve. C'est le fleuve plus les rives.
Ouais.
Nous sommes pris dans une tension dont nous devons admettre qu'elle est insondable, mais c'est dans l'attention que nous prêtons à cette tension qui est celle du langage même, qui dit et ne dit pas ce qu'il dit. Il y a un fragment extraordinaire qui dit « Tosophone, qu'est-ce que c'est ?» Ben, c'est le nom de Zeus qui veut être dit et pas dit. Les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est comme philosophie, le nom de Zeus? Voilà, c'est le génitif Zenos. Zeus, Zenos, c'est le génitif. Et Zen, ça veut dire vivre. Alors, Zeus, le dieu suprême, bah, il veut bien être appelé vie, mais il veut aussi être appelé mort. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le lire.
Si bien qu'on peut se demander s'il faut le lire en philosophe ou bien en poète.
Héraclite. C'est vrai qu'il est peut-être par là même plus que philosophe parce qu'il est en même temps poète. Le langage d'Héraclite n'est pas un langage technique au sens des philosophes à la manière kantienne ou hegélienne. C'est un langage qui comprend encore beaucoup de métaphores, hein, qui est à bien des égards à mi-chemin entre le langage commun et le langage constitué de termes proprement philosophiques, exclusivement philosophiques, donc il y a une charge poétique. Or, le langage poétique est plus substantiel, est le plus substantiel de tous les langages, parce que le nombre des significations qui sont enveloppées dans la phrase poétique n'est pas fini, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment énumérable.
Parmi les spécialistes d'Héraclite, on trouve notamment le philosophe Marcel Conche que vous venez d'entendre. C'était une archive du 22 octobre 1986 sur France Culture. Hans Wiesmann, êtes-vous d'accord pour dire que le Héraclite est peut-être philosophe, mais il serait avant tout poète, puisque c'est la poésie qui permettrait le mieux de cerner le type de sens que veut saisir Héraclite?
Ben, ça dépend maintenant de ce qu'on entend par philosophie et ce qu'on entend par poésie. Si on entend par philosophie uniquement le souci de parvenir à l'assignation identitaire, pourrait-on dire, de ce qui est. Dans ce cas, en effet, la poésie a une supériorité dans la mesure où elle peut faire apparaître des nuances qui ne se laissent pas rapporter à une espèce de socle commun. Et donc, il y a une richesse poétique, une exubérance poétique, alors on peut être très sensible à ça. Mais ce n'est pas du tout le cas d'Héraclite, qui est
d'une... C'est une certaine conception réductrice de la philosophie aussi. Ce que, bien sûr.
Mais Héraclite est d'une sécheresse. Quand on lit ses fragments, c'est tout sauf poétique. C'est sec et c'est constitué d'analyses extraordinairement précises de ce qui se passe quand je parle de quelque chose. C'est ça qui l'intéresse. Et donc, du coup, je dirais que c'est un philosophe qui, comme Kant, barre l'en-soi. Pour moi, Héraclite, le philosophe, alors il sursauterait si je le lui disais, mais le philosophe qui incarne le mieux l'aspect philosophique de l'héritage d'Héraclite, c'est Kant. Parce qu'il dit dans l'analytique, il faut renoncer au nom orgueilleux d'une ontologie et s'intéresser donc à nos facultés. Et c'est exactement ce qu'Héraclite dit, il faut renoncer à cette prétention spéculative de parvenir de manière univoque à la désignation de ce qui est réel.
Donc souvent ça t'appelle l'en-soi.
Oui, l'en-soi. Et ça échoue toujours. Parce que le langage dont on se sert pour le désigner, eh bien, a ce versant qui est simplement perceptible si on pratique l'écoute double.
Mais alors, est-ce à dire, et ce sera le dernier point, Eswitzmann, que nous sommes condamnés au malentendu, finalement, à ces contraires
Non, au contraire, c'est une invitation à écouter avec une attention, mais dédoublée, si j'ose dire. Dédoublée, parce qu'il faut écouter ce que le type veut dire, et en même temps, il faut entendre ce qu'il dit en réalité, et qui, très souvent, lui échappe. C'est pour ça que l'analyse psychologique...
Oui, la radio aussi, ça fonctionne bien.
La radio, le souci... Enfin, ça, on pourrait faire toute une émission sur la séduction de la radio. Moi, là-dessus, j'ai des choses avec des exemples extraordinaires. C'est que la télévision tue. Parce que dans la télévision, il y a la présence à soi qui est mise en scène. Tandis que à la radio, il y a une absence qui accompagne la présence qui est suggérée par la voix.
La radio est un média héraclitéen ?
Oui. Si on sait, même des gens très humblement qui se laissent bercer par les voix de la radio, eh bien, sont dans un syndrome héraclitéen parce que quelque chose leur arrive qu'ils ne peuvent pas du tout assigner comme étant une pensée déterminée, un sujet, etc. Non, c'est une ouverture sur l'inattendu. Et c'est peut-être le mot de la fin de dire que nous devons pratiquer l'écoute héraclitéenne, qui est donc caractérisée par le fait qu'on attend quelque chose qui est inattendu. Et c'est un paradoxe insondable d'attendre l'inattendu. Et c'est toute vie.
C'est la meilleure nouvelle du jour, en tout cas, Eswitzmann. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'Héraclite ce matin. On mettra en ligne votre bibliographie, notamment Pensée entre les langues aux éditions Albin Michel, puisque la radio et ce média héraclitéen, on va se quitter avec un malentendu, mais un malentendu chanté.